quand il vieillit, il a vieilli, il priait. Subha, c'est la nafila. Ça s'appelle Subha. Non, il priait à cause de qu'elle contient beaucoup de tesbih. Elle contient beaucoup de tesbih. Il faisait les nafilas, il les faisait assis. Quand il a vieilli, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, et cela une année avant sa mort. Une année avant sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a eu 62 ans, il a commencé à faire une année certaine, ce n'est pas beaucoup, de nawafil assis. Hein, parce que c'était un peu difficile avec l'âge. Ensuite, le titre c'est Salatu fil ni'ali wal amru biha. Salatu fil ni'ali wal amru biha. La prière avec les chaussures et l'ordre de faire ainsi. La prière avec les chaussures et l'ordre de faire ainsi. Wa kana alayhi salatu salam yaqifu ahyanan hafiyan wa mutana'ilan ahyanan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parfois pieds nus dans la prière et quelquefois chaussé. Abu Daoud ibn Majah, hadith mutawatir. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois il était pieds nus dans la prière et parfois il était chaussé. طيب. وأباح ذلك لأمته فقال إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهما بين رجليه ولا يؤذي بهما غيره ولا يؤذي بهما غيره. حديث صحيح bien sûr. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis à sa nation, c'est-à-dire qu'elle fasse aussi la prière avec les chaussures. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, quand l'un d'entre vous prie, qu'il porte ses chaussures ou qu'il les enlève. Non, la même chose. Il passe avec les chaussures ou qu'il les enlève. Et, c'est-à-dire s'il les enlève, qu'il les place entre ses pieds. Entre ses pieds. Et qu'il ne nuise pas aux autres avec. Et qu'il ne nuise pas aux autres. Non. Quand on est à la mosquée, par exemple, on va enlever les chaussures. Maintenant, il y a des endroits spéciaux, on va cacher les chaussures. Autrefois, quelqu'un, il n'y avait pas où on mettait les chaussures. Il a dit, quand quelqu'un veut faire la prière sans les chaussures, qu'il les mette entre ses pieds. Ou bien, s'il n'y a pas quelqu'un à gauche, on les met à notre gauche. Et s'il y a quelqu'un, on les met entre nos pieds. Pourquoi? Parce que si tu les mets à gauche, ça va être à la droite de celui qui est à ta gauche. Non, si tu les mets à ta gauche et quelqu'un à ta gauche, les chaussures vont être à sa droite. Donc il faut les mettre entre nos pieds. Non. وأكد عليهم الصلاة فيهما أحيانا فقال خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. نعم. حديث صحيح. Et il a parfois encouragé la prière en portant les chaussures. Il a dit, différez des juifs. Yani, ne vous ressemblez pas aux juifs, différez des juifs, car ils ne prient pas avec leurs chaussures. Les juifs ne prient pas avec leurs chaussures, ni avec leurs chaussettes en cuir, ni avec leurs chaussettes en cuir. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de yani, faire exprès pour faire la différence entre nous et les juifs. Et comment on fait cette différence? Il y a plusieurs façons de la faire, entre autres dans la salat. De temps en temps, on doit prier en mihrab. On doit prier avec les chaussures. Pourquoi? Juste pour avoir le ajr, cette récompense d'avoir différé des juifs. Car les juifs n'acceptent jamais qu'ils fassent une prière avec les chaussures. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait beaucoup, beaucoup différer des juifs et des chrétiens, bien sûr. Alors là, il a dit il faut yani, différer des juifs. Donc nous, comment on dit ça? En faisant de temps en temps la prière avec les chaussures. Surtout par exemple, pour ceux qui sont par exemple en voyage. Quand je suis en voyage, et j'arrête pour faire la prière, je descends de la voiture, je ne vais pas enlever mes chaussures. Oui. C'est une occasion en or, c'est une occasion en or pour que je fasse la prière avec mes chaussures. Pourquoi? Pour faire vivifier la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. Ensuite, quand je suis en voyage, quand je descends dans la rue, je descends, il y a du sable, il y a des peut y avoir des scorpions, il peut tout avoir. Donc même logiquement, on l'a fait avec les chaussures. Alors qu'en est-il maintenant qu'il y a la sunna qui te dit que la prière avec les chaussures. فكان ربما نزعهما من قدميه وهو في الصلاة ثم استمر في صلاته كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. De temps en temps, sallallahu alayhi wa sallam, il les enlevait, yani les chaussures, de ses pieds quand il était en prière. En pleine prière, de temps en temps, il enlevait ses chaussures et continuait ainsi sa prière, comme le rapporte Abu Sa'id al-Khudri. Qu'a Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu ta'ala anhu, il a dit, « Salla bina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, bata yom. » Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pria avec nous un certain jour. Naam. « Falamma kana fi ba'di salatihi » Quand il fut engagé dans la prière, quand il fut engagé dans la prière, il retira ses chaussures et les plaça à sa gauche. Remarquez, il les a placées à sa gauche parce qu'il n'y a personne à sa gauche. Il était à l'avant, au devant et il guidait les gens. Quand les gens virent cela, virent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enlevé ses chaussures, ils enlevèrent leurs chaussures. Les compagnons, radiallahu ta'ala anhum, qui étaient derrière, ont commencé à enlever leurs chaussures. Pourquoi? Parce qu'ils aimaient beaucoup le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans essayer de comprendre, ils veulent faire comme lui. فَلَمَّا قَادَ صَلَاتَهُ قَالَ مَا بَالُكُمْ أَلْقَيْتُمْ نِعَالَكُمْ. Quand il finit sa prière, quand il l'a fini, il a dit, pourquoi avez-vous enlevé vos chaussures? Pourquoi avez-vous enlevé vos chaussures? قَالُوا رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَنَا عَلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا. Ils ont dit, on t'a vu, pardon, non, ils ont dit, ils répondirent, nous t'avons vu retirer tes chaussures, et nous avons donc retiré nos chaussures. فَقَالَ, il leur a dit, إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَدَرًا أو قَالَ آذًا وَفِي رِوَيَا خُبْثًا نعم, خَبَثًا فَأَلْقَيْتُهُمَا. Il a dit, en vérité, Jibril m'est venu et m'a informé qu'il y avait de la saleté, ou il a dit quelque chose de nuisible, et dans une autre version il a dit une saleté sur mes chaussures. Je les ai donc retirées. Yani, voilà la cause. Ensuite, il a dit, إذا صلى أحدكم نعم مش عفوا نعم إلى دي إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا أن يكون عن يساره أحد إلا أن لا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه. Donc on a vu dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé ses chaussures en plein salat. C'est pour dire que si en plein salat on apprend que on a quelque chose qui se contredit avec la salat, on doit enlever cette chose en plein salat. On fait comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez remarqué qu'il n'est pas sorti de la salat. Il n'a pas dit, puisque Jibril m'a dit que j'ai de la saleté ou de la souillure, donc je vais yani dire salam alaykoum et je vais recommencer de nouveau. Non. Il a terminé, il a corrigé. Comment il a corrigé? Il a enlevé les chaussures contenaient de la saleté, il a enlevé les chaussures en plein salat. Quand je dis de la saleté, ça veut dire de la souillure. Si c'est de la saleté, par exemple, de la graisse ou là, ça n'a pas d'importance. Mais, quand on fait la prière et on remarque qu'on a quelque chose qui annule notre salat, qu'est-ce qu'on fait? On enlève cette chose qui annule notre salat dans la salat, sans quitter la salat, si, je dis bien si, si c'est une chose qui s'enlève dans la salat. Naam. Si c'est une chose qui s'enlève dans la salat, comme pour un homme la chéchia. La chéchia pour un homme. Ou bien sa veste. La veste pour un homme. Naam. C'est pas grave, il peut l'enlever tout en étant dans la salat. La femme, par exemple, si c'est la souillure, par exemple, dans son khimar, elle ne peut pas enlever son khimar. Naam. Mais si c'est, elle portait, par exemple, supposons qu'elle portait un gilet, elle enlève le gilet. Pourquoi? Parce que ce n'est pas, yani elle peut faire sans le gilet. Si elle a, par exemple, un hijab, yani elle avait un gilet sur le hijab, quelque chose comme ça. Elle enlève la chose où il y avait la souillure, à condition que ça n'annule pas, yani ça ne montre pas sa aura. Et enlève ses chaussures, il a dit qu'il ne les mette pas à sa gauche. Il a dit qu'il les mette entre ses pieds. Pourquoi? Parce que si on les met à la gauche, bon, premièrement, on n'a pas le droit de les mettre à la droite. Jamais on les met à la droite. Mais avant de voir si on peut les mettre à la gauche, on voit s'il y a quelqu'un ou il n'y a pas. S'il n'y a personne à notre gauche, on les met à la gauche. C'est mieux que ça soit entre nos jambes, entre nos pieds. Entre nos pieds, ça nous dérange. Donc à ma gauche, c'est mieux. Mais maintenant, s'il y a quelqu'un à ma gauche, je les laisse entre mes pieds. Mais si je suis seul à la maison, il n'y a pas de problème. Yani, je les enlève et je les mets comme ça de côté, yani, à ma gauche. Parce que je suis seul. Non. Ensuite, le titre, nouveau titre, As-salatu ala al-mimbar. La prière sur la chair. La prière sur la chair, sur le mimbar. Wa salla, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, marratan ala al-mimbar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il pria sur la chair. Sur la chair. Wa fi riwaya, innahu dhu thalathi darajat. Et dans une autre narration, qu'il avait trois marches. Yani, le mimbar, la chair, avait combien? Avait trois marches. Masha'Allah, vous voyez la sunna, le mimbar, de préférence, il doit avoir trois marches. Cheikh Al-Albani a dit, Allah yirhamo, il a fait une petite remarque, en bas il a dit, ceci est la sunna, en ce qui concerne le mimbar. Ceci, yani les trois marches. Ceci est la sunna, en ce qui concerne la chair. Qu'il y ait trois pas, pas plus. Trois pas, yani trois marches. On monte une fois, deux fois, trois fois, seulement trois marches. Qu'il y en ait plus, s'il y en a plus de trois marches, est une innovation de la période de Bani Omeya. C'est une innovation qui a vu le jour dans la période de Bani Omeya. Chose qui souvent cause l'interruption du rang. Naam. Quand on a un mimbar qui a plus de trois marches, il est yani, assez long, assez haut. Il est donc, yani, il prend beaucoup de place. Où est-ce qu'on veut le mettre? Quand l'imam va monter sur le mimbar est tellement long et haut qu'il va couper le premier rang. Non. Mais s'il n'avait que trois marches, il est loin du premier rang, il ne coupe pas le premier rang. Et toute chose qui coupe un rang est interdite. Que ce soit un homme, que ce soit un arbre, que ce soit un chien, que ce soit la chair, que ce soit le mimbar. Aucune chose ne doit couper un rang. Un rang. Aucune chose ne doit couper un rang. Et on n'a pas le droit de faire la prière dans un rang qui n'est pas terminé. Bien dans un rang où il y a une rupture comme ça. Naam. Ensuite, le prophète, ensuite Cheikh Al-Albani termine, il a dit, et pour s'éloigner de cela, interrompre un rang. Maintenant, on a un mimbar qui est assez long, pour ne pas interrompre le rang, qu'est-ce qu'on va faire? Il a dit, ils vont placer le mimbar dans le côté ouest de la mosquée, ou à l'endroit du mihrab. Et cela est une autre innovation. Comme l'est aussi son emplacement dans le mur sous forme de balcon. Dans certaines mosquées, on a même ici beaucoup même, j'ai vu ça aussi en Syrie, et je n'en ai jamais vu en Algérie, certaines mosquées ont la chair, le mimbar, qui est construit. C'est pas quelque chose de bois sur lequel on monte. C'est quelque chose de construit. C'est un petit balcon. Un petit balcon. Et le imam, qu'est-ce qu'il fait? Il monte. Il monte certains escaliers comme ça, comme en spirale. Et il se trouve un peu plus haut de nous, sur cette forme de balcon. Et de là-bas, il fait le prêche. Naam. Ça, c'est une innovation. Naam. Ça, c'est une innovation. Le mimbar, c'est quelque chose qui bouge. Et on le fait, on le pousse, on le met à droite, on le met à gauche, c'est ça le mimbar. Il doit être en bois, on ne doit pas construire dans une mosquée un mimbar construit comme ça, comme le mur, en ciment, et il est toujours là. Il a dit ça, c'est une innovation. Il a dit, sous forme de balcon dans lequel il est possible de monter en s'aidant d'escalier placé vers le mur. Il a dit, et la meilleure voie et la voix de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Khayrul hadi, hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Maintenant, il y a certains mimbars, Allah al-Musta'an, qui sont tellement grands, que les gens au point où les gens ne peuvent pas prendre le minbar pour le faire bouger, tellement il est en bois dur et tellement il pèse que on lui a mis des roues, on lui a mis quatre roues. Pourquoi? Pour le pousser, sinon on peut pas le faire bouger. On lui a mis quatre roues, c'est presque devenu une petite voiture. Il faut de temps en temps aller faire le vidange, lui faire le vidange et lui mettre de l'huile et de l'essence un peu pour qu'il marche, tellement il est lourd. On lui a mis 4 roues, subhanallah. Il manque seulement un petit volant, un petit moteur, on va faire marcher le minbar. Allah subhanahu wa ta'ala al-musta'an. Naam. Alors que un petit minbar avec 3 petites marches aurait suffi, et on aurait fait la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Donc une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté sur le minbar et il a commencé à prier. Subhanallah. Il est monté sur le minbar et il a commencé à prier. Il a dit: قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر. نعم. Il s'est mis debout sur le minbar et récita le takbir. Il a dit Allahu Akbar. Il s'est mis sur le minbar, bien sûr, en face de la Qibla. نعم. Tout en regardant la Qibla. Car il va faire une salat. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Allahu Akbar. Et les autres étaient derrière eux. Derrière eux. نعم. Yani les sahaba radiallahu ta'ala anhum étaient derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit Allahu Akbar. Et les autres, les gens qui étaient derrière lui, ont dit aussi Allahu Akbar. Thumma raka'a wa huwa alayh. Ensuite, il s'est incliné tout en étant sur le minbar. Thumma rafa'a. Ensuite, il se leva, il a dit Sami' Allah liman hamida. Il a levé la tête. Naam. Fa nazala al-qahqara hatta sajada fi asl al-minbar. Il a dit Sami' Allah liman hamida et il a commencé à descendre en arrière. Naam. Il a commencé à descendre, yani marche arrière, comme si l'on peut dire. Pourquoi? Pour rester tout le temps en face de la Qibla. Il doit être en face de la Qibla. Naam. S'il regarde les compagnons, sa salat va être annulée. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à descendre les marches arrière. Non, marche arrière. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Hatta sajada fi asl al-minbar. Pourquoi il est descendu? Pour faire la prosternation au pied de la chair du minbar. Ça veut dire il a descendu les trois marches. Il les a descendues en marche arrière. Quand il a terminé les trois marches, il s'est trouvé sur le sol. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est prosterné sur le sol, pas sur le minbar. Il s'est prosterné sur le sol. Thumma ada. Ensuite, il retourna. Il monta sur le minbar et il continua. Fasama'a fiha kama yasma' fi rak'ati al-oula. Et il fit exactement comme il avait fait dans la première rak'a. Naam. حتى فارغ من آخر صلاته jusqu'à l'achèvement de sa prière. ثم أقبل على الناس فقال. Ensuite, il s'est tourné vers les gens. Qu'est-ce qu'il a dit? يا أيها الناس إني سمعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. Oh vous les gens, j'ai fait cela pour que vous me suiviez et appreniez ma prière. Hadith رواه البخاري مسلم. Donc remarquez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait la prière sur le minbar. Et comment il est descendu marche arrière et il a fait la prosternation en bas, et quand il a terminé la deuxième prosternation, il a dit Allahu Akbar, il s'est levé et il a tout en restant dans la prière, il a commencé à remonter les marches jusqu'à prendre sa place en haut. Et il a fait comme ça la deuxième raka et ainsi de suite. Et quand il a terminé, qu'est-ce qu'il a dit? Oh vous les gens, j'ai fait cela pour que vous me suiviez et appreniez ma prière. On prend de là quelques avantages. C'est quoi par exemple le premier avantage? Premier par exemple, c'est de dire que quand quelqu'un veut apprendre à des gens quelque chose, de préférence, qu'il soit dans un endroit haut. Naam, qu'il soit dans un endroit assez haut. Yani, pourquoi? Pour que les gens puissent le voir. Naam. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ce mimbar. Pourquoi le mimbar? Pour que les gens voient celui qui est en train de faire le prêche et l'entendent. Parce que quand on entend et on voit, c'est mieux que lorsqu'on entend, c'est tout. Naam. Quand tu vois quelqu'un en train de parler et tu l'entends, yani, tout ce qu'il dit, tu le comprends mieux. Ça rentre directement dans le cœur. Et quand tu l'entends sans le voir, c'est moins. Donc, tu comprends certes, mais ce n'est pas comme tu le vois. Quand tu le vois, il fait des gestes, il fait des choses avec ses yeux, etc. Ça t'aide à te faire ancrer, à te faire ancrer le message qu'il veut dans ton cœur. Donc la sunna, quand on veut apprendre aux gens quelque chose, on doit être dans un endroit, dans une position où on est assez élevé. Pourquoi ? Pour qu'on nous voit tous. Naam. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Ayyuhannas, ô vous les gens, j'ai fait cela pour que vous me suiviez et appreniez ma prière. » Quand ils montent sur le minbar, ils commencent à leur montrer comment ils s'inclinent, comment ils lèvent les mains, comment ils se prosternent. Tu le vois, yani, très bien. Tu le vois très bien et tu apprends vite. Mais s'il était en bas, il faisait ça, ceux qui sont un peu derrière, ils sont gênés, ils ne voient pas. Yani, ceux qui sont dans les premiers rangs, les jeunes. Naam. Mais quand il est monté comme ça en haut, tout le monde peut le voir. On prend aussi un deuxième avantage, et très important, cet avantage de la dit Ibn Hajr al-Asqalani dans Fath al-Bari, si je n'ai pas oublié, il a dit que c'est de la sagesse. C'est de la sagesse. Et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que quoi? Que quand on fait une chose, que on a peur que les gens ne la comprennent pas, on doit montrer la cause. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était la première fois qu'il est monté sur le minbar, il a fait la salat. Les gens, ils se sont étonnés. Naam. Ils vont s'étonner, ils se sont étonnés. C'est pour ça que il est de la sagesse de leur dire voilà la cause pour laquelle j'ai fait cette chose. Naam. C'est pour ça que quand on est avec quelqu'un, par exemple, on fait une chose, on doit aussi yani, penser ce que pense l'autre. On doit se dire, est-ce que cette personne comprend ce que je viens de faire? Peut-être qu'elle n'a pas compris. Donc il faut que je lui explique. Je fais la chose, quand je termine, je lui dis, écoute, j'ai fait le sujoud par exemple ici, parce que j'ai oublié quelque chose dans la salat. C'est pour ça que j'ai fait ce sujoud. Et comme ça, naam, si je fais quelque chose qui me paraît, moi je crois que je me dis, peut-être cette personne ne connaît pas bien la sunna ou là, elle va pas comprendre. Donc qu'est-ce que je fais? Je lui explique. Quand je termine, je lui dis, même s'il ne demande pas l'explication, je lui explique. Je lui dis, j'ai fait cette chose pour ceci et cela. Voilà la cause. Donc voilà le délit, c'est quoi? C'est ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a terminé, il leur a dit, naam, il s'est tourné vers les gens, oh vous les gens, j'ai fait cela pour que vous me suiviez, apprenez ma prière. Yani, voilà la raison pour laquelle j'ai fait la prière sur la chair. Naam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait beaucoup de hikmah, beaucoup de sagesse. Naam, quand il sent que ça va les rendre perplexes là, il dit voilà la cause, voilà la chose, naam, voilà la cause qui m'a poussé à faire cette chose. Naam. Ah, maintenant c'est très important. Sutra ici c'est écrit écran, couverture. Mais dans le contexte de la prière, cela réfère à un objet qu'on dépose juste devant l'endroit de la prosternation, devant lequel rien ne devrait passer. Naam. Donc sutra, on va faire maintenant, on va parler beaucoup de la sutra. La sutra c'est quoi d'abord? Il faut d'abord comprendre. C'est quoi la sutra? La sutra, c'est quelque chose qu'on doit mettre devant nous. Naam. On la met devant nous, pourquoi? Pour que personne ne passe, bi-idhna azzawajal, pour que personne ne nous interrompe, bi-idhna azzawajal, quoi? La salat. Ne nous interrompt la salat, bi-idhna azzawajal. Tayyib. Wa kana sallallahu alayhi wa sallam yaqifu qariban min sutra. Ici, c'est dit, regardez ce qu'Allah al-Azim, ce qu'il qui est dit dans le livre. Non, regardez ce qui est dit dans le livre ici. Il est dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'arrêta près de la sutra. Il a fait une mauvaise interprétation. Il a dit s'arrêta, il a lu en arabe yaqifu. Et yaqifu ici, ce n'est pas s'arrêta. Yaqifu, c'est-à-dire il se mettait debout. Yaqif. Non, on dit à quelqu'un, qif, arrête-toi. Mais il reste debout. Non, quelqu'un qui est assis, on lui dit qif, lève-toi. Ici, ça veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tenait debout près de la sutra et non pas s'arrêter devant la sutra. Al-Muhim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mettait debout devant la sutra. Qariban min sutra, près de la sutra, près d'elle. Fakana baynahu wa bayna al-jidar thalathatu adru'. Et il y avait entre lui et la sutra qu'il prenait, la chose, l'obstacle qu'il mettait devant lui, il y avait combien? Une distance de 3 coudées entre lui et le mur. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam laissait entre le mur et lui quand il faisait la prosternation. Naam. Quand il était prosterné, on pouvait trouver à peu près il laissait entre lui et la sutra. Il laissait entre lui et la sutra 3 coudées, c'est-à-dire à peu près 1,5 mètre. Quand on veut prendre la sutra, on la pose devant nous et on s'éloigne d'elle quand on est debout pour dire Allahu Akbar. Elle doit être à 1,5 mètre de nous. Naam, loin à 1,5 mètre de nous. Naam. وبين موضع سجوده والجدار ما مرشت. Alors que il laissait entre l'endroit de sa prosternation et le mur, il laissait assez d'espace pour qu'un mouton puisse passer. Bukhari ou Muslim. Je résume. Chacun, quand il va faire la prière, chaque personne, que ce soit un homme ou une femme, est obligé de prendre l'obstacle, de prendre quelque chose pour la mettre en face. Quand je dis prendre quelque chose, je peux ne pas prendre s'il y a en face de moi le mur. Le mur me suffit. L'armoire me suffit. Le frigo me suffit. Si je fais la prière en face du frigo, le frigo me suffit. Al-Muhim, il faut qu'il y ait quelque chose en face de moi. Je ne fais pas la prière comme ça dans le salon, au milieu du salon. Au milieu du salon, je fais la prière et le mur, par exemple, est très loin là-bas. Là, je dois m'approcher de quelque chose. M'approcher du divan. M'approcher du mur. M'approcher de l'armoire, m'approcher de la chaise. Et moi, combien je laisse? Je laisse 1,5 mètre. Quand je suis debout, la chose, l'obstacle, entre elle et moi, il doit y avoir 1,5 mètre. Maintenant, quand je me prosterne, je descends pour faire la sujda, je dois laisser entre moi et le mur, entre moi et l'obstacle, entre moi et la chaise, je dois laisser combien? Je dois laisser pour que, si jamais il y avait un mouton, il aurait pu passer. C'est-à-dire, je laisse, les ulama ont dit, à peu près 2 empans. Un empan, 2 empans. Quand on fait comme ça avec les mains, 1 empan, 2 empans. C'est peut-être, yani, sauf peut-être 20 cm là. Yani, je me dis, s'il y avait un mouton ici, il aurait pu passer entre moi et l'obstacle. Donc, je ne colle pas, quand je fais la prosternation, je ne colle pas ma tête contre l'obstacle. Je ne la colle pas. Je laisse entre ma tête et l'obstacle, la sutra, je laisse que s'il y avait un mouton, il aurait pu passer bi'idhnillahi azza wa jal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la tusalli illa ila sutra. Attention, ne prie que vers une sutra. Naam, pour celui qui veut prier sans la sutra, on lui dit attention, le prophète alayhi wa sallam a dit ne prie que vers une sutra. Toi, pourquoi tu n'as pas la sutra? Il faut que tu mettes la sutra. Donc ne prie que vers une sutra. وَلَا تَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكِ. Et ne laisse personne passer devant toi. فَإِنْ أَبَا فَلْتُقَاتِلْهُ. S'il refuse, si cette personne refuse et veut à tout prix passer entre toi et la sutra, le prophète Aïssoum a dit combat-le, naam. فَإِنَّ مَعْهُ الْقَارِينَ. Car il y a un compagnon avec lui, le qarin. C'est qui le qarin? C'est le shaitan, bien sûr. C'est le shaitan. Naam. Il veut passer entre toi et la sutra. Il veut t'annuler ta prière. La sunna, c'est tu fais quoi? Avec ta main, tu mets ta main comme ça pour qu'il ne passe pas. Yani, tu tends ta main vers l'avant. Yani, attention, ne passe pas. Maintenant, il va repasser la deuxième fois. Tu lui remets comme ça ta main. Deuxième fois, tu mets ta main comme ça pour qu'il ne passe pas. S'il est à ma gauche, je tends ma main gauche. S'il est à ma droite, je tombe ma main droite pour qu'il ne passe pas. Maintenant, la troisième fois, s'il veut passer, il insiste. Qu'est-ce que je fais? Je le pousse assez fort. Je le pousse par, je mets ma main sur sa poitrine et je le pousse assez fort, quitte à ce qu'il tombe. Quitte à ce qu'il tombe, naam. Pourquoi? Parce que celui-là veut m'annuler ma prière et celui-là, ce n'est plus lui qui fait comme ça. C'est le shaitan qui est avec lui. Le shaitan qui l'a habité. Et lui fait des ouest-ouest et lui dit, viens, on va annuler la salat de cette personne. Non, la salat, tellement elle est importante, maintenant il veut me l'annuler. Donc qu'est-ce que je fais? La première fois, je mets ma main pour qu'il ne passe pas. La deuxième, je lui montre ma main. Attention, ne passe pas. La troisième, je le pousse pour qu'il comprenne. Non. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un autre hadith, non. Il a dit, إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, quand l'un de vous prie vers une sutra, qu'il s'approche d'elle, il s'approche pour que le shaitan ne puisse pas interrompre sa salat. Naam. Abu Daoud et le Hakim, hadith sahih. Quand quelqu'un fait une sutra, comme je viens de dire, il s'éloigne pas d'elle 3 ou 4 mètres. Naam. Il est seulement entre elle et lui 1,5 mètre. Naam, 1,5 mètre s'il est debout. Et 2 ou 3 en pompe s'il est en prosternation. Et de temps en temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherchait quoi? Cherchait à prier devant le pilier qui était dans sa mosquée. Bukhari. Hadith dans Bukhari. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la mosquée, quand il était dans la mosquée, il ne faisait pas la prière comme ça en plein milieu de la mosquée. Qu'est-ce qu'il faisait? Il se rapprochait de qui? Il se rapprochait du pilier. Et il laissait entre lui et le pilier 1,5 mètre. C'est-à-dire, il prenait le pilier comme sutra. Cheikh Al-Albani a dit, la sutra est une obligation pour l'imam ou pour la personne priant seule, même dans une grande mosquée. Naam. La sutra est une obligation pour lui-même et pour la personne priant seule, même dans une grande mosquée. Même dans une grande mosquée, ou même quand il prie seul à la maison, il doit faire une sutra. J'ai dit la sutra, ça peut être le mur, ça peut être l'armoire, etc. وَكَانَ إِذَا صَلَّى فِي فَضَاءٍ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ يَسْتَتِرُ بِهِ غَارَزَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَرْبَةٌ فَصَلَّى إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ. Naam. Et quand il priait à l'extérieur où il n'y a rien qu'on puisse employer comme sutra, qu'est-ce qu'il faisait? Par exemple, en plein désert, où est-ce qu'il va trouver la sutra? Il va dire, il n'y a pas de sutra, je ne fais pas la prière. Comment qu'il faisait? Il plantait la lance, il prenait la lance et la plantait devant lui et priait vers elle et les gens derrière lui. Naam. Il priait ce qu'on a... La lance, ça s'appelle harba en arabe. Tout le monde sait ce que c'est une lance, un pointu comme ça vers l'avant. Il la plante devant lui et il fait la prière vers la lance. Il fait la prière vers la lance et les autres, bien sûr, ils ne sont pas obligés de mettre la sutra parce que quand l'imam a une sutra, ça suffit. Les autres, ce n'est pas la peine qu'ils mettent un obstacle. C'est seulement l'imam, s'il est avec les gens, c'est seulement l'imam qui met la sutra. Mais si on est seul, si on prie seul, chacun doit mettre une sutra pour lui-même. وكان طيب هذا قلناه واحيانا كان يعرض راحلته فيصلي عليها واحيانا يعرض راحلته فيصلي اليها. Et de temps en temps, il plaçait sa monture en largeur et priait vers elle. Bukhari Ahmed. De temps en temps, qu'est-ce qu'il fait? La monture, il la met en largeur. Naam, il la met en face de lui comme ça en largeur, par exemple sa tête à droite et sa queue à gauche, et il faisait la prière en face d'elle. Naam, il faisait la prière vers elle. وَأَحْيَانًا كَانَ يَأْخُذُ الرَّحْلَ فَيُعَدِّلُهُ فَيُصَلِّ إِلَى آخِرَتِهِ. Et de temps en temps, qu'est-ce qu'il faisait? Et, j'ai pas trouvé ça. Non, il prenait sa selle. De temps en temps, il prenait la selle, la plaçait en longueur et priait vers son bout, vers le bout de la selle. Non. وكان يقول اي الفيزي اذا وضع احدكم بين يديه مثل مؤخره الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. Le prophète عليه الصلاه والسلام disait: quand l'un de vous place devant lui quelque chose comme le bout de la selle lorsqu'il prie, qu'il ne se préoccupe pas de ce qui se passe au-delà. نعم. Toi, quand بإذنها عز وجل, quand بإذنها عز وجل, tu as la sutra, ce qui se passe après la sutra est peu important. Yani, ce n'est pas la peine de faire du mauvais son pour ce qui passe derrière la sutra. Ce qui n'est pas bien, si, c'est si quelque chose passe entre nous et la sutra. Mais si c'est derrière la sutra, tout ce qui peut passer, il n'annule pas ma salat. Tout ce qui peut passer, n'annule pas ma salat. نعم طيب وكان يقول ماذا قلنا وكان احيانا يصلي الى شجره une fois le prophète صلى الله عليه وسلم pria vers un arbre نعم النسائي احمد اسناده صحيح donc صلى الله عليه وسلم il a choisi un arbre et il a fait la prière vers lui وكان احيانا يصلي الى السرير وعائشه رضي الله تعالى عنها مضطجعه عليه تحت قطيفتها. Et de temps en temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait vers le lit, tandis que notre mère, Aïcha radiallahu ta'ala anha, y était couchée, sous sa couverture. Naam, Bukhari muslim. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait même la prière face au lit. Et sur le lit, il y avait notre mère, Aïcha radiallahu ta'ala anha, dans sa couverture. Naam, sous sa couverture. Et lui, il fait la prière en face du lit, car le lit était bien sûr vers la Qibla. Non. Donc le lit était entre lui, entre la Qibla. Non. وكان لا يدع وكان لا يدع شيئا يمر بينه وبين السترة. Non. Et sallallahu alayhi wa sallam ne laissait rien passer entre lui et sa sutra. Jamais il ne laissait quelque chose passer entre lui et sa sutra. فكان, يعني une fois ça s'est passé, فقد كان يصلي إذ جاءت شاة تسعى بين يديه فساعاها حتى ألزق بطنه بالحائط ومرت من ورائه. Et une fois, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était en train de faire la prière, un mouton coura devant lui. Non? Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'avança de façon à appuyer son ventre contre le mur. Et que fit le mouton? Et le mouton fut obligé de passer derrière lui. Hadith en sahih, Ibn Khuzayma. Hadith en sahih. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de faire la prière en face du mur et il a vu un mouton qui allait passer entre lui et le mur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vite avancé et a collé sa poitrine, sa belle poitrine, sallallahu alayhi wa sallam, contre le mur. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il a collé son ventre. Alors le mouton était obligé de passer derrière le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez, même un mouton, il ne le laisse pas passer. Pourtant le mouton n'est pas souillé. Il y a une grande différence entre le mouton et par exemple le chien. Et il ne l'a pas laissé passer sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Et aussi, wa salla salat maktouba fa damma yadahu. فلما صلى قالوا يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout en accomplissant sa prière, c'est une prière obligatoire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il serra son poing pendant celle-ci. Une fois, tout en étendant la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à serrer son poing. Subhanallah al-Azim. Dans la prière, on doit avoir la main droite sur la main gauche. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé la main et a commencé comme ça à serrer sa main. Il a commencé à serrer son poing. Alors, quand la prière fut terminée, les gens lui dirent: Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, quelque chose est-il arrivé pendant la prière et on t'a vu yani, faire comme ça? Qu'est-ce qu'il a dit? Là, non. Il a un shaitan arada yamura bayna yaday. Non, sauf que le diable, shaitan, a voulu passer devant moi. فخنقته حتى وجدت برد لساني على يدي. Alors le shaitan a voulu passer devant moi, je l'ai donc étranglé jusqu'à ce que j'ai senti la froideur de sa langue sur ma main. Subhanallah. Naam. ويم الله لولا ما سبقني إليه أخي سليمان لارتبط إلى سارية من سوار المسجد حتى يطيف به ولدان أهل المدينة فمن استطاع أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل. Aussi, il a juré, il a dit par Allah, si mon frère Suleyman ne m'avait pas devancé, devancé, c'est-à-dire, il avait demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui donne, yani, que ce soit lui qui commande les djinns, etc. Il a dit, Wallah, s'il ne m'avait pas devancé, j'aurais lié le diable, je l'aurais lié à un des piliers de la mosquée, pour que les enfants de la Médina puissent tourner autour de lui le matin. Non. Aussi, quiconque peut empêcher quelque chose qui peut passer entre lui et la Qibla, qu'il le fasse. Ahmed Daraqni Tabari Usnadou Sahih. Naam. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en train de faire la prière et le shaitan, le la'in, a voulu lui couper la prière. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait aussi une de ses particularités que il voyait le shaitan. Donc, il l'a vu. Il l'a vu comme ça, en train de s'approcher, il l'a laissé s'approcher, s'approcher. Quand il a voulu passer entre lui et le mur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pris par le cou. Naam. Il l'a étranglé. Il a dit, je l'ai étranglé au point où j'ai senti la froideur de sa langue. Naam. La langue. Naam. Je crois que dans un autre hadith, je crois qu'il a dit Allah subhanahu wa ta'ala alam, que j'ai senti aussi sa salive. Naam. Sa salive comme ça. Dans sa main, sallallahu alayhi wa sallam. Si c'était nous, yani on serait étonné. On aurait dit, subhanallah, pourquoi il fait comme ça sa main? Que fait cette personne? Pourquoi qu'elle fait comme ça sa main? Mais il a expliqué, il a dit, voilà, c'est à cause du shaitan. Shaitan qui a voulu m'interrompre ma prière. Qui a voulu me couper ma prière. Naam. Ensuite, il a dit, il a dit, إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه في نحره وليدرع ما استطاع وفي رواية فليمنعه مرتين فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand l'un d'entre vous prie vers quelque chose, yani sutra, qui lui sert de sutra, entre lui et les gens, et que quelqu'un veut passer devant lui, qu'il le repousse dans la gorge. Naam. Il met sa main comme ça sur sa gorge et il le repousse. Qu'il le repousse autant qu'il peut. Dans une narration, dans une autre version, il a dit qu'il l'empêche deux fois. La première fois, je l'empêche. La deuxième fois, je l'empêche. Mais s'il refuse, il a dit qu'il le combatte. Qu'il le combatte. Parce que en vérité, c'est un diable. Naam. En vérité, c'est un diable. Dans le hadith de tout à l'heure, il a dit, il a le diable avec lui. Maintenant, c'est possible que classe, le diable l'a habité. C'est lui le diable. Classe. Maintenant, c'est un diable celui-là. Ce n'est plus une personne. Non. Il disait aussi, لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من يمر بين يديه. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, si la personne qui passe devant celui qui prie, yani connaissait le péché qu'elle a. Si elle savait quelle est la grandeur et l'ampleur du péché qu'elle avait, alors ce serait meilleur pour elle, cette personne, d'attendre 40 que de passer devant lui. Naam. D'attendre 40 que de passer. Les ulama ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit d'attendre 40 quoi. Et nous, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire donc, on va prendre le minimum. C'est quoi 40? Disons 40 secondes. Hein? Je préfère attendre 40 secondes que de passer devant cette personne. D'autres ont dit 40 minutes. D'autres ont dit 40 mois. Et d'autres ont dit, même s'il doit attendre 40 années. On lui dit, qu'est-ce que tu préfères? Passer devant cette personne qui fait la prière. Et vois lorsque tu as péché, lorsque tu as 40 ans. Il dira, je préfère 40 ans. Tellement il y a des péchés. Tellement celui qui passe entre quelqu'un qui fait la prière, qui la sautera, et ça sautera, tellement il a péché, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, yani, si on devait le choisir entre passer et patienter 40, qu'il patiente 40. Non, tellement c'est grave. Maintenant, je vais ajouter quelque chose qui n'est pas, par exemple, dans ce livre, je dirais pour la sutra en même temps pour réviser. Non. Ah oui, je me souviens. Abdullah ibn Omar, radiallahu ta'ala anhu, dans le hadith sahih, quand il rentrait des fois à la mosquée, et il ne trouvait pas une sutra, il disait à son serviteur, il disait à Nafi', radiallahu ta'ala anhu, il dit, donne-moi, donne-moi, fais-y la prière sans doute. On peut prendre le quelqu'un. Si on ne l'avertisse pas, c'est pas la peine de l'avertir. Il est assis en train de lire le Coran là, je vais dans son dos et je dis Allahu Akbar. Je l'ai pris comme sutra. Non. Donc, conclusion, on est obligé de prendre la sutra. On est obligé de prendre la sutra. Et la sutra, comme je viens de le dire, c'est l'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est quelque chose qui soit assez haut. Ce n'est pas obligé que ça soit large. Non, ce n'est pas obligé que ça soit large. Mais il faut que ça soit assez haut. Et ulama ont dit à peu près 45 cm de hauteur. Il y en a 47. 45,7. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire presque un demi-mètre. Donc, de préférence, quand on veut prendre une sutra, on choisit quelque chose qui fait au moins un demi-mètre. Si on ne peut pas, yani, malish, on n'a pas trouvé, on a trouvé moins court, ça ne fait rien. Yani, 30 cm, 25 cm. Cheikh Al-Albani a dit, même si c'est un empan ou deux. Malish, mais au moins j'ai une sutra. C'est préférable que de ne pas faire la salat à la sutra. Je n'ai pas trouvé quelque chose d'assez haut. Je prends quelque chose, yani, qui n'est pas assez haute, mais c'est mieux que de ne pas avoir la sutra. Naam. Donc la largeur, ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est la hauteur. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, plantait la lance. Et la lance, en général, elle n'est pas large. Elle fait, je ne sais pas, peut-être 3, 4, 5 cm de largeur. Mais elle est haute. Elle fait 2 ou 3 mètres de hauteur. Donc l'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est la hauteur, un demi-mètre. Et on doit être loin d'elle, quand on est debout, loin d'elle, 1,5 mètre. Et quand on se prosterne, on laisse entre nous et la sutra, on laisse pour que un mouton puisse passer. C'est-à-dire deux empans à peu près. Deux empans à peu près, chibren à peu près. Naam. Et il y a un hadith baïf que beaucoup de gens croient qu'il est sahih. Le hadith baïf qui dit que on peut, si on est par exemple dans le désert, on n'a pas trouvé de sutra, on fait une ligne avec notre doigt. On trace, on dessine une ligne comme ça, on dit ça c'est la sutra, yani dans notre cœur. On dit j'ai dessiné cette ligne comme sutra. Ce hadith n'est pas vrai. Et on ne peut pas faire cela, on rentre dans la bida. Tant que le hadith n'est pas vrai, on ne peut pas travailler avec. On dit hadithul khat, le hadith du trait, khat alayh, fait un trait sur lui. Le hadith du trait, fait un trait sur lui, ça veut dire, comme on dit, fait un trait, ça veut dire, comme disent les gens, fait une croix. J'aime pas dire le mot croix. Ils disent, alors, fait un trait sur lui, il n'est pas valable. Donc, le hadith du trait n'est pas valable. Et, l'âme, voilà ce que je voulais dire sur la sutra. On peut prendre un animal comme sutra, on peut prendre la voiture, on peut prendre le dos de quelqu'un, on peut, l'âme, rayer. Ça, pour le rayer, le hadith du trait pour le ré, il n'est pas vrai. Donc on peut prendre une voiture comme ce plan, on peut prendre le dos de quelqu'un, on peut prendre le mur, on peut prendre un animal. Non. Bref, ça c'est en ce qui concerne la sutra. Maintenant, qui est-ce qui interrompt la prière? Qui est-ce qui annule la prière? Bref, je suis sûr qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire dans la sutra, mais je ne les ai pas dans la tête. Mais je suis sûr qu'il y a aussi beaucoup d'autres choses à vivre dans la sutra. Non. Et peut-être qu'elles viendront avec vos questions, Inch'Allah Ta'ala. Je suis sûr qu'elles viendront avec vos questions. Et vous allez à Zawajid. Mais il y a pas. Qu'est-ce qui nous annule la prière? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل المرأة الحائض والحمار والكلب الأسود. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la prière d'un homme ou d'une personne est annulée quand il n'y a rien, yani quand il n'y a pas une sutra. Bien sûr, c'est-à-dire il a annulé si je sais si quand il n'y a pas une seconde. Non, ça, quand il n'y a rien, il n'y a pas de sutra, il y a trois choses. Si elles passent devant toi, ta salat est annulée. Soit quand tu n'as pas de sutra, ou soit quand tu as la sutra, mais ces trois choses vont passer entre toi et la sutra. Non. Si tu n'as pas de sutra, ta salat est annulée. Mais si tu as un sutra, et ces trois choses vont passer entre toi et la sutra, pas derrière la sutra, donc ta salat est annulée. C'est quoi les trois? Il a dit al-mar'atu al-ha'id, la femme pubère, la femme qui est devenue pubère. Non. Ce qu'il a dit. Et le lien noir. Et le femme qui a commencé à avoir des règles, donc est plus bas. Le schéma, l'âme et le chien noir. Abu Zar a dit Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, yani pourquoi le chien noir plutôt que le roux? Non, pourquoi un chien noir plutôt que le roux? La différence entre le chien noir et le roux? Oui, dis ça, c'est court. Dis ça, c'est que je suis obligé donc de sortir. Oui. Ça se coupe depuis tout à l'heure ou comment se couper maintenant? Est-ce que ça se coupe depuis tout à l'heure? Ou là, on vient se couper maintenant? Ah, Allah, j'attends ta réponse. Nam, est-ce que ça se coupait depuis tout à l'heure ou là ça a commencé à se couper maintenant? Et maintenant c'est bon? J'ai peur que vous dites ça se coupe. Ça vient. Ça coupe, ça vient, vient, ça coupe. J'ai peur que vous dites cela parce que je tourne ma tête. Parce que le micro est au coup. Je ne sais pas quand je tourne à droite, à gauche, ou là ça se coupe vraiment, je ne sais pas. De toute façon, on va continuer. Et bi'idna azza wa jal, on va voir, on va continuer, bi'idna azza wa jal, on va voir. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il y a trois choses, il coupe la salat, il a dit la femme quand elle est pubère, il a dit l'âne, il a dit le chien noir. Alors Abu Dharr radiallahu ta'ala anhu a dit à Rasulullah pour le chien noir et pas le rouge par exemple. Pourquoi spécialement le chien noir et pas le rouge? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, le chien noir est un shaytan. Le chien noir est un shaitan. Donc il faudrait que tout le monde sache, si quelqu'un fait une sutra, bien sûr il faut que toute chose passe derrière la sutra, pas entre lui et la sutra. Mais maintenant, s'il y a une chose qui veut passer entre lui et la sutra, il doit au maximum éviter de laisser la chose passer. Il fait le maximum pour que la chose ne passe pas. La chose ou l'animal ou la femme ou le bébé ou le mouton. Vous avez remarqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas laissé passer un mouton. Non. Mais quand on a un enfant devant nous par exemple, on ne le laisse pas passer. On ne le laisse pas passer entre nous et la sutra. On lui met comme ça de la main, quitte à quoi. Yani on le rend comme ça, yani derrière, on le prend comme ça, on le met derrière notre dos. Non. Ça ne fait rien. s'il insiste, on le prend, on le met sur notre dos. Ça ne fait rien. Quand on se prosterne, on le laisse monter sur notre dos. Naam, c'est possible qu'on faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec le Hassan ou le Hussein, radiyallahu ta'ala anhumah. Mais seulement, on ne laisse pas quelqu'un passer entre nous et quoi? Entre nous et la sutra. Maintenant, si quelqu'un veut passer, on doit le pousser pour qu'il ne passe pas. Et on doit le pousser un peu fort pour qu'il ne passe pas. Maintenant, si on l'a poussé et il est passé, non, il a poussé, on l'a poussé et il est passé, non, ça, ce n'est pas de notre faute parce qu'on a voulu, mais on n'a pas voulu qu'il passe, mais il est passé. Mais on va voir qui c'est cette personne. Si c'est une femme ou là, un chien noir, spécialement noir, pas un autre chien, ou là, un homme, on doit refaire la salat. Non, on doit refaire la salat. Quand j'ai dit une femme, ça veut dire une femme pubère. Ça veut dire que si elle n'est pas pubère et elle est passée, non, si on a essayé de ne pas la laisser passer, elle est passée, on n'a rien. Et si on l'a laissé passer et elle n'est pas pubère, on a la moitié de la salat. Non, c'est comme si, par exemple, un enfant passe ou là, un homme passe. Un homme passe entre nous et la sutra. On a la moitié de la salat si on l'a laissé passer. Comme ça a dit Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala anhu, dans le hadith sahih. Ça a dit, si quelqu'un passe entre toi et ta sutra, et n'est ni un âne, ni un chien noir, ni une femme yani, pubère, tu as la moitié de la salat si tu l'as laissé passer. Maintenant, s'il est passé sans que tu le saches, tu le veux, Inch'Allah ta'ala, tu es excusé. Sauf si c'est une femme ou un homme, ou le chien noir, tu dois refaire Idla Azza wa Jal sa salat. La salat, tujah al-qabr, tujah al-qabr. Wa kan sallallahu alayhi wa sallam, yinha an salat, tujah al-qabr. Wa yaqul, la tusallu ila al-qubur, wa la tajdi alayhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, interdisez la prière face à une tombe. Et ne priez pas vers les tombes. Et ne vous asseyez pas sur elles. Ne vous asseyez pas sur les tombes. Muslim et Abu Daoud. Il y a un sahih qui est devant moi, et c'est un hadith authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je préfère. Il est préférable pour une personne qu'elle s'asseye sur la, sur la braise. Non, sur le feu et que le feu lui transperce le vêtement et le brûle, lui brûle par exemple la cuisse, mieux que de s'asseoir sur une tombe. Pourquoi je dis ça? Et pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela? Parce qu'il y a beaucoup de gens, surtout les femmes, quand elles ont le fier, elles s'assoient sur la tombe. Non, elles s'assoient sur la tombe. Comment ça va n'importe quoi et surtout du mariage. Il s'est marié, on l'a demandé, il n'a pas accepté, tu es marié et ceci et cela. On a dit dans la tombe, et en étant assise sur la tombe. Donc, si quelqu'un on lui disait qu'est-ce que on va prendre une braise et on va se trouer, te brûler les vêtements et te brûler la cuisse. Préfère sur la tombe. Il doit choisir le feu. Il dit, brûlez-moi, je m'assois sur une tombe. Tellement, c'est haram de s'asseoir sur la tombe. Vous voyez? Maintenant, l'intention. L'intention. Al-niyya. Wa kana sallallahu alayhi wa sallam yaqul innama al-a'malu bin-niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, certes, les œuvres sont accompagnées d'intention et chaque homme n'obtient que ce qui est conforme à son intention. Ensuite, le takbir. Parlons un peu d'abord de la niya avant de parler du takbir. Tamallah, dis-moi s'il y a le son. Celui-ci se coupe pas. Non.
Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Donc, salam alaikum, je voudrais venir tous les frères et sœurs qui reçoivent des PV, par exemple des frères de sœurs ou des sœurs de frères, qui me le disent, inshallah, et on verra ce qu'on fera, inshallah. Et je rappelle que ces PV sont interdits. Donc, craignez Allah, taqullah, ikhwa. Et inshallah, on patiente que le shir revienne, inshallah. Faites des doigts. Et je vous rappelle qu'à la fin, on fera les questions-réponses. Alors, n'envoyez, ne levez pas la main, car les questions, ce seront les frères qui les prendront, inshallah. Donc, Fatah, si tu peux baisser la main, inshallah, barakallahu fik. Et veuillez patienter et soyez très très. Faites bien vos questions, quoi. Rédigez-les d'une meilleure façon qu'on puisse bien les comprendre et qu'on puisse bien les donner au chir et facilitez-nous la tâche. Barakallahu fikoum.
Salam alaikum wa rahmatullah. Fais saute. Jidan. La personne dont tu m'as parlé, fais-la sortir, Ramallah, fais sortir la personne dont tu m'as parlé. Une seconde, Inch'Allah. Non. Et une seconde, je vais commencer, Inch'Allah. Non. Donc le takbir très important le takbir ثم كان عليه الصلاه والسلام يستفتح الصلاه بقوله الله اكبر ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاه بقوله الله اكبر نعم اي استاذ طيب je parlais de la niya je disais l'intention le prophète صلى الله عليه وسلم a dit إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit, certes, les œuvres sont accompagnées d'intention et chaque homme n'obtient que ce qui est conforme à son intention. Ensuite, il faisait le takbir. Là, je voudrais dire, ou plutôt je dis, c'est-à-dire d'abord Cheikh Al-Albani, il a dit, lorsqu'on a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait la salat par Allahu Akbar, Cheikh Al-Albani ici a fait une petite remarque. Il a fait une petite remarque. Il a dit, "Wa fil hadith ishara ila annahu lam yakun yastafti'uha bi nahwi qawlihim nawaitu an usalli ila akhir dhalika." Naam. Il a dit, le hadith contient une indication et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne commençait pas la salat, ne la commençait pas avec les mots de certains gens qui disaient « j'ai l'intention de prier », etc. Il a dit « ce qui est unanimement considéré comme une innovation ». Bida. Naam. Seulement certains disent « yani c'est une bida hasana ». Certains disent « c'est une bonne bida ». Et Cheikh Al-Albani dit bien sûr « toute bida est un égarement ». Car c'est comme ça qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit « toute innovation est un égarement ». Et tout égarement est dans le feu. Donc il n'y a pas en islam bonne innovation et mauvaise innovation. Il n'y a pas en islam, il n'y a pas dans le dîn. Dans le dîn, il n'y a pas bonne innovation et mauvaise innovation. Il y a une bonne innovation dans la dunya. La voiture est une bonne innovation. L'avion est une bonne innovation. L'ascenseur est une bonne innovation. C'est comme ça. Non, c'est une innovation qui nous aide, mashallah. Le téléphone est une bonne innovation. Non. Mais dans le dîn, il n'y a pas une innovation qui soit bonne. Toute innovation, a dit le prophète, alayhi sallam, est un égarement. Kullu bid'a dalala. Wa kullu dalalatin fin nar. Et chaque innovation est en enfer. Non. Il n'y a pas donc, on le dit, une bonne innovation. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commençait sa prière en disant Allahu Akbar. Allahu Akbar. Donc, c'est des innovations que quelqu'un dise des choses avant de dire Allahu Akbar. Non, avant de dire Allahu Akbar. Car l'intention de faire la salat doit se trouver dans le cœur et non pas sur la langue. Non, l'intention, on la laisse dans le cœur. C'est ça que j'entends beaucoup de personnes dire, surtout dans la mosquée où je suis, ils disent, surtout les Asiatiques. Les Asiatiques, les Hindous, les Bengals, les... Avant de dire Allahu Akbar, qu'est-ce qu'il dit? La main commence à se dire. À voix haute, il dit Nawaitu salat Allah, j'ai l'intention de faire pire. 4 ra'at. 4 mustamad. Il paye le siyar imam. Non, il paye le qada'an. Qada'an, par exemple, il dit. Pardon, qada'an. يعني أداء أداء فخمس ركعات نعم أداء صديق يجبلي فقط فقط يجبلي فقط نورمال تو سا سي لا بيدا تو سا سا رونت دون لينوفاسيون سا رونت دون لينوفاسيون الله أكبر دي سون كون دامي كون Et tous les grands imams ont dit que c'est une bid'a de prononcer l'intention. Se trouve dans le cœur. Toi, quand tu es à la maison, ensuite, tu entends le adhan. Tu vas faire les ablutions et tu sors de la, pardon, tu sors de la maison. Pourquoi tu es sorti de la maison? Sorti de la maison, à faire, pour faire un voile, pour. Ça y est, ça coupe. Non, ça coupe. Ça coupe, c'est pas de ma faute. Non. C'est. Comment ça s'appelle? C'est l'internet. Non. C'est l'internet, c'est pas. C'est pas moi. Non. Donc, puis ça coupe, donc je préfère m'arrêter ici, Bidna Azzawajal. Je préfère m'arrêter ici, Bidna Azzawajal. Donc je termine seulement avec la niya. Je vous dis que quand quelqu'un sort de sa maison, c'est quoi? C'est que c'est un délil, que il a eu l'intention dans son cœur. C'est un délil qu'il a eu l'intention dans son cœur. Sinon pourquoi serait-il allé à la mosquée? Et la femme qui s'est levée a commencé à faire des ablutions. Pourquoi elle a commencé à faire des ablutions? Parce qu'elle a mis l'intention dans son cœur de quoi? Qu'elle allait faire la prière de dehors, par exemple. Et ce qui est étonnant, comment je dois dire à haute voix, Ya Allah, j'ai l'intention de faire la prière dehors, par exemple, je fais savoir à Allah Ta'ala, qui sait tout, je lui fais savoir que c'est la prière de dehors, et ce n'est pas celle de Asr. Ce qui est étonnant, c'est que comment, si on demande à quelqu'un dans la rue, quelqu'un qui est assis dans un café, on lui dit, cette personne que tu vois en face, où est-ce qu'elle va aller? S'il connaît la personne, il nous dit cette personne va aller là, je la connais. Maintenant, elle est en train de marcher, elle va aller. Donc c'est étonnant. Comment un étranger puisse savoir ta niya, il connaît ton intention. Il sait que tu vas aller à la mosquée, alors que toi, tu ne sais pas jusqu'à ce que tu fasses tu fasses l'intention à voix haute. Toutes les intentions en islam à voix haute sont des innovations. Toutes les intentions en islam à voix haute sont des innovations. On ne doit pas dire c'est la prière de telle et telle salle, c'est l'intention de telle et telle. Comme on ne doit pas dire, on ne doit pas dire quoi? On ne doit pas dire c'est par exemple demain que je vais quoi? Que je vais prier. Pardon, je vais faire salat. C'est pas ça. Je vais faire par exemple siyam. Non, on ne peut pas aussi. On ne peut pas. Non, on ne peut pas. On la laisse dans. Quoi? On la laisse dans le cœur. Ce sont des choses qu'on doit laisser dans le cœur. Naam. Il y a un tekfiri qui est avec nous qui s'appelle Menteur Jahal ibn Taymiyyah. Il est dans la salle. Il veut faire des problèmes. Vous avez reçu aujourd'hui, je n'en ai personne. j'ai laissé les points rouges. Même les questions, la fois prochaine, Allah, les feront par un média. On va même les séries, comme a le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les chiens de l'enfer, quand ils viendront en enfer, ils viendront en forme de chien. Cela, si tu es dans la main, il peut dire n'importe quoi. Il peut insulter et dire des grands mots. Non, je les ai entendus dans les salles, les salles de tekfir. Ils passent le temps à parler du djihad le matin au soir. Et puis, si le où tu es toi, où tu es, il te dit, je vais en Europe. Mashallah, tu viens en Europe, tu vas faire le djihad. Pourquoi tu vas pas au djihad? Pourquoi tu parles aux gens djihad et toi tu viens en Europe avec les kofars? Laisse-le, ne fais pas sortir. Laisse-le pour qu'il apprenne un peu le din. Pourquoi tu viens en Europe et tu vas pas faire le djihad en Irak? Pourquoi tu vas pas à la Tchétchénie? Qu'est-ce que tu fais en plein Europe? Hein? Dis-moi, qu'est-ce que tu fais en plein Europe? Alors cela, leur péché demain, lorsqu'ils rencontreront Allah Azza wa Jal, ce sera grave pour eux. Pourquoi? Ce sont des chiens de l'enfer et ce sont des gens qui poussent. Ils poussent les gens à faire le djihad et eux, ils restent. Ils restent là dans les cafés, dans les salons, en train de boire le assir, les jus, en train d'acheter les dernières voitures et d'amasser l'euro. Voilà comment ils vivent. Et ils poussent les jeunes de 15-18 ans, ils, au lieu de les pousser à prendre le din, ils les poussent à ce qu'ils aillent dans des choses que les ulama n'ont pas dit, c'est l'heure du djihad. Donc cela, il faut, comme j'ai dit, bien prendre garde des takfiriyin, qui est la secte la plus dangereuse après l'Ahbash. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'ils resteront jusqu'à la fin du monde. Mais qu'à chaque fois que deux cornes sortiront, c'est Allah Ta'ala en personne, c'est Allah Ta'ala qui les enlevera. Naam, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le hadith l'a authentifié Cheikh Al-Albani. Kullama dhahara qarnun qata'a Allah. À chaque fois qu'il y a des cornes qui sortent, c'est Allah Azza wa Jal qui leur enlève les cornes. Regardez en Algérie, regardez partout ce qu'a fait Allah Azza wa Jal des Khawarij. Comment il les a dispersés. Pourquoi? Pour les châtier ici avant de mourir. Sur ce, il y a Ibn Taymiyyah, sur ce, Ibn Taymiyyah al-Jahal, va dans une autre salle, Allah yahdik, rentre dans une salle, A'udhu billah min shaitan rajim, A'udhu billah min shaitan rajim, dites tous dans la salle, A'udhu billah min shaitan rajim, je vais le sortir, A'udhu billah min shaitan rajim. Tayyib. Maintenant, je parlais toujours du takbir, je disais que l'intention, elle doit être toujours dans le cœur. L'intention doit être toujours dans le cœur. On ne doit jamais dire que je vais faire cette salat, ou là que demain je vais faire ce jeûne, ou là que demain je vais faire cette chose. L'intention c'est toujours dans le cœur, car Allah sait ce qu'il y a dans les cœurs. C'est pas la peine de dire je vais faire cette chose. Non, on s'arrête sur l'intention. Il y a des choses très importantes qui vont venir, inchallah, dans le prochain dos. Car le prochain dos c'est quoi? C'est comment lever les mains. Le prochain dos c'est à partir de, on lève les mains pour dire Allahu Akbar, et on continue. Et on montre bi'idhnillah ta'ala toutes les fautes qu'il y a dans ces choses-là. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. In asartu fa min Allah azza wa jalla wa in akhta'tu fa min nafsi. Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. J'enlève aussi le point rouge. Ah bon, il y a deux hommes, inshallah ta'ala, suffit. Pour les sœurs, il y a qui? Attendez. Non. Yep. Non. Je ne sais pas où c'est le mal. Quelqu'un veut montrer où elle est, où Abdallah, il a moi, je la vois. Au moins qu'elle lève là. Alors, il y a Oumreïmane du 13. Oumreïmane du 13. Je n'ai pas trouvé Oum Abdallah. Thank you. vois que mes parents bougent la voir pas, qui fait un rouge, je sais pas où c'est.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا لله إن الله سميع عليم. ولا يجهروا بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالهم وأنتم لا تشعرون. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان صوت يا أخي إلياس، الصوت موجود يا أخي؟ ما شاء الله. نعم، je pense que ça doit venir du salon, qu'il y ait un problème, inshallah. Donc, je vais voir avec Cher ce qu'on peut faire. Je pense que le mieux, ce serait de fermer et de rouvrir le salon, car je pense qu'il doit y avoir un problème à ce niveau-là. Donc, je vois avec Cher ce qu'on fait et on vous tient au courant, inshallah. Donc, veuillez patienter. Barakallahu fikoum. Salam alaikum, veuillez patienter, le chir arrive, inshallah. Donc je vais lui poser le problème en privé et nous allons voir ce que nous pouvons faire, inshallah. Bismillah, veuillez patienter, barakallahu fikoum.
Fais saut, inshallah, salam alaikum, fais saut. Elle fait saut, inshallah. Ah, il faut pas dire Allahu a'lam. Là, il commence à être bon, ensuite il devient pas bon. Hein? Allahu a'lam, c'est pas maintenant qu'on peut savoir. Inch'Allah ta'ala, on va voir. Ça va se vérifier. Vérifier, bi'idna azzawajal. On commence, Inch'Allah ta'ala. Où est-ce qu'elle est la première question, Inch'Allah ta'ala? Là, vous posez la première question et on voit. On voit si vous pouvez m'entendre ou là c'est difficile. Naam. Je vois en face de moi Oumou Seyfidin. Naam, Amber. Je crois que c'est elle à qui j'avais promis de répondre la première. Si je ne me suis pas trompé, c'est oui. Elle envoie à quelqu'un pour dire c'est moi. Tayyip. C'est qui la première question, Inch'Allah ta'ala. Vous avez dit que lorsqu'un enfant passe devant nous, lors de la salle, il faut l'empêcher de passer. Mais beaucoup de gens laissent passer en disant que pour l'enfant, ce n'est rien. Pouvez-vous m'expliquer? Je suis complètement perdu. Car je laisse mes enfants, c'est très passage, parce que je... ça là, que dois-je faire? Ce qu'il a envoyé n'est pas là, donc à quoi ça sert de répondre? Non, il faut attendre, Inch'Allah ta'ala, qu'elle vienne. Il faut attendre, Inch'Allah ta'ala, qu'elle soit là. Non. En préférence, on apprend un peu que les autres arrivent. Est-ce qu'il y a une autre question, Inch'Allah? Et la sœur à laquelle j'avais promis de commencer par elle, de lui répondre. Est-ce qu'elle est là? Est-ce que c'est sûr que c'est elle? Je ne me rappelle plus. J'avais promis à une sœur de commencer par elle. Pour qu'elle me rappelle qui c'est elle. Non. Ça y est, fais sous elle, Inch'Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Mon ami de Paris a 28 ans, musulman, pratiquant, ingénieur informatique et sérieux bosseur. Tu pourrais voir si tu es sérieux, si tu es intéressé, la chère Marion m'a découvert. Yes, ça veut dire que je pense que c'est une question Allah Yahdik. Naam, Allah Yahdik. Allah subhanahu wa ta'ala qui te guide. Naam, Malish. Inch'Allah, ma fille, Arj. La sœur de... Quelle sœur? La sœur de la question. Oh. La sœur de la question. Naam. Cher, vous avez dit que lorsqu'un enfant passe devant nous lors de la salade, il faut l'empêcher de passer. Mais beaucoup de gens laissent passer en disant que pour l'enfant, ce n'est rien. Pouvez-vous m'expliquer? Je suis complètement perdu car mes enfants de très bas âge passent lorsque je fais la salade. Naam. Je rappelle à ma sœur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsque quelqu'un fait la prière, il a dit wa la tada ahad yamurru bayna yadayk, ne prie que vers une sutra et ne laisse personne passer devant toi. Quand je dis personne, ça veut dire que l'enfant aussi rentre. L'enfant rentre quoi? Rentre dans les personnes. Ça veut dire personne. Même l'enfant, on ne doit pas le laisser passer. Naam. Même l'enfant, on ne doit pas le laisser passer. Naam. Le prophète Sansa m'a dit que tu peux ne laisser personne passer entre toi et la sutra. Donc, qu'est-ce que tu dois faire, ma soeur? Pour les salats qui ont été faites, Inch'Allah ta'ala, elles étaient exactes et acceptées. Parce que tu les as faites, tu as laissé passer les enfants par ignorance. Et la prochaine fois, Inch'Allah ta'ala, il ne faut pas laisser passer un enfant. Un enfant, on peut le prendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait la fille, Umm Habiba, la fille de sa fille. Naam, Zainab, la fille de sa fille. Zainab, Umm Habiba, il la mettait sur son cou et faisait avec elle la prière. Ce n'est pas interdit. Naam, je mets mon enfant sur son cou, un pied à droite, un pied à gauche, et je le tiens par les mains et je fais la prière. Ce n'est pas interdit. Je le mets sur mes épaules, pardon, je le mets sur mon dos quand je prosterne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait la prosternation, il laissait le Hassan ou le Hussein sur son dos un long, long moment, très long moment. On lui disait, pourquoi tu as fait une prosternation très longue? Il a dit, mon petit enfant est monté sur son dos, j'ai pas voulu le déranger. Il le laisse sur son dos et le prophète sallallahu alayhi wa sallam prosterné. Mais on ne laisse jamais passer quelqu'un. S'il veut passer, on essaie de le pousser avec la main jusqu'à ce que on le pousse un peu jusqu'à ce qu'il ne passe pas, Inch'Allah ta'ala. Naam. Prochain sou'al, Inch'Allah. Mais les salat l'ukhrain, khalas. Hadouk, elles sont vraies, Inch'Allah, car tu ne savais pas. Et quiconque ne sait pas, Allah Azza wa Jal lui pardonne. Il peut, entre parenthèses, lui donner des péchés pour ne pas avoir demandé la science. Allah Azza wa Jal peut donner à certaines des péchés pour ne pas avoir demandé la science. Naam. Faites-en, Inch'Allah, prochaine question. Salam alaykoum wa rahmatullah. Lorsqu'on prie derrière un imam, ça se trahit la mort. Mais si nous prenons en cours, la salat, il a fini son seul. Doit-on mettre une sutra? Vous avez dit que tout ce qui se passe derrière la sutra n'annule pas la salat. On est tout ce qui se passe au-dessus. En dessus de la sutra. Au-dessus de la sutra. Voyez, pour ce qui passe au-dessus de la sutra, je n'ai pas encore conçu que l'image est allée. La sutra, elle commence par terre et elle monte. Comment une chose peut passer sous la sutra? En dessous de la sutra. Au-dessus de la sutra. Au-dessus. Non, c'est pas bon. Non. Yani, supposons par exemple qu'un chat. Un chat saute par exemple. Non, on avait mis par exemple une sofa, par exemple un coussin, il y a un chat qui est passé au-dessus. Non, j'ai pas compris la question, mais j'ai pas compris. Supposons que l'on ait mis une cagette. D'abord, c'est quoi une cagette? C'est une petite cage ou là, c'est quoi la cagette? Et une personne se sert dedans. Et la personne, une caisse. Et la personne se sert dedans. Et la personne va rentrer dans la caisse. Et qu'est-ce qu'elle va faire la personne? La personne va ouvrir la caisse? Je n'ai pas compris la question. Un peu difficile. Et, mais il y avait une question. Oh, il y avait une question avant celle-là. Non, lorsqu'on prie derrière un imam, c'est lui qui a la sutra. Quand il termine, il dit salamu alaykum, l'imam dit salamu alaykum, salam wa rahmatullah. S'il y a des gens qui sont toujours devant moi, ce sont eux ma sutra. Naam. Le rang qui est avant moi, ce sont eux ma sutra. Maintenant, s'il n'y a rien devant moi, je peux avancer un peu ou reculer un peu, ou aller un peu à droite ou aller un peu à gauche pour chercher la sutra, car la sutra est wajib. Mais je ne peux pas faire beaucoup de pas. Tu ne peux pas faire trois ou quatre pas, par exemple. Juste un pas à droite, un pas à gauche, un pas à l'avant, un pas à l'arrière pour prendre la sutra. Mais j'ai entendu une fois, Cheikh Mohamed Firkous, hafidhahullah, j'ai entendu dire que c'était possible de ne pas, dans ce cas, c'était possible de ne pas chercher une sutra. Il a dit pourquoi ? Il a dit parce que on se suffit au premier ordre. Le premier ordre, c'est quoi ? C'est de prendre la sutra. Alhamdoulilah, j'ai pris l'imam sutra. Maintenant, c'est lui qui m'a quitté, ce n'est pas de ma faute. Certains ont dit, Inch'Allah ta'ala, si tu termines comme ça, yani, ce n'est pas interdit. Wallahu subhanahu wa ta'ala, a'alam. Moi, je préfère prendre celui qui dit, yani, tu vas un peu à droite, un peu à gauche, un peu en avant, un peu en arrière. Wallahu subhanahu wa ta'ala, a'alam. Naam. Fadal, Inch'Allah, prochaine question, Inch'Allah. Il y a quelqu'un qui, j'ai fait une caisse, j'ai fait une caisse comme sutra. Ensuite, il y a quelqu'un qui vient et qui prend quelque chose de la caisse, non. S'il ne traverse pas entre moi et la caisse, il n'y a pas de problème. S'il ouvre comme ça, il met seulement sa main. Il met seulement sa main, Inch'Allah ta'ala, ce n'est pas un problème. Abdel Qayyum, salam alaikum. Alaikum salam, ma question, je voudrais savoir, je veux savoir, est-ce que ma prière est acceptée sachant que je suis dans un certain temps, depuis un certain temps, je prie assis car je suis malade. Je vomis en étant debout pour éviter cela. Je prie assis, barakallahu. Cela vous récompense. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Salat salam à Ashraf Moussalim. Essaye d'abord, bi'idna azzawajil, de faire le takbir debout. Naam. Fais le takbir debout. Ensuite, bi'idna azzawajil, tu t'assois. Si tu peux t'asseoir par terre, c'est mieux que sur la chaise. Par terre, si tu peux, c'est d'après la maladie. Et si tu t'assois par terre, c'est mieux de t'asseoir en tailleur. En tailleur, c'est-à-dire, murabba, tarbi'a. Hein? Tu fais, tu croises tes jambes, tu croises tes jambes. Hein? Ça, c'est mieux. Si tu ne peux pas, Inch'Allah ta'ala, tu fais ta salat dans la position où tu peux. Inch'Allah ta'ala, ta salat est acceptée parce que comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit fais la salat debout, si tu ne peux pas fais-la assis, sinon fais-la sur le côté. Et toi, car tu ne peux pas debout, c'est pour ça que tu la fais assis. Allah Azza wa Jalla sait si tu peux debout ou si tu ne peux pas. Et je ne crois pas que quelqu'un, yani, veuille annuler sa salat, il peut debout, il va la faire assis. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Naam. Inch'Allah ta'ala. Prochaine question, Inch'Allah ta'ala. Wa alaykoum salam. Attends, le droit de laisser passer. Yahdikoum lojlehu balakoum. Yahdikoum lojlehu balakoum. Attends, le droit de laisser passer des enfants lorsqu'on prie. Barakallahu fik. Subhanallah al-Azim, je viens juste de répondre à la question. Ça fait pas une minute. Je viens de dire que on ne doit pas laisser passer les enfants entre nous et la sutra. On ne doit pas. Ils n'ont pas le droit de passer. On peut les prendre sur notre cou, on peut les prendre sur notre dos. Mais on n'a pas le droit de laisser quelqu'un passer entre nous et la sutra. Naam, il n'a pas le droit. On fait le maximum pour qu'il ne passe pas. C'est pour ça que avant de faire la prière, on essaye de le mettre dans un endroit où il va pas, yani, nous perturber. Naam. Pour réfléchir, avant de commencer la salat, on doit le mettre dans un endroit où il ne va pas, où il ne veut pas, où il ne peut pas, Inch'Allah ta'ala, nous perturber. Bentashmi, demande à la sœur Seki, Barakallahu fik, demande à la sœur Seki, et tu me l'envoies comme ça en whisper, c'est-à-dire personne ne peut lire qui c'est son pseudo. Et moi, quand je vais répondre sans dire son pseudo. Mais dis-lui qu'elle te dise, c'est qui exactement? Qu'est-ce qui a écrit? C'est quoi son pseudo dans le Gmail? Tamallah, salam alaikum wa rahmatullah. Au Masjid al-Haram, c'est impossible qu'on ne passe pas devant toi, ça. Quand tu es en prière, tellement il y a de monde. Alors, comment faire? Question 2. si je prends une personne de la mosquée comme ce soir et que cette personne s'enlève, avant que j'ai fini, que les gens passent devant moi, est-ce que ma prière est valable? Naam, bismillahirrahmanirrahim. Dans le masjid al-haram, c'est très difficile que quelqu'un ne te coupe pas la salat. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu fais, yani, comme a dit Allah Azza wa Jal, fattakullah mastata'tum. Fattakullah mastata'tum. Yani, essayez au maximum de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, au masjid al-haram, tu essayes au maximum. Celui qui passe très près de toi, tu ne le laisses pas. Tu mets ta main comme ça. Et laisse le passer au moins derrière ta main. Au moins derrière ta main. Maintenant, quand quelqu'un passe, Allah râle, c'est pas ta faute. Tu as fait ce que tu peux, tu ne peux pas. Car c'est très difficile. Et Allah Azza wa Jalla sait que c'est très difficile. Mais toi, au moins, tu dois faire quelque chose pour montrer que tu as essayé de faire. Hein? Pour montrer que tu as essayé de les faire éloigner, mais tu n'as pas pu. Naam. Et quand on fait, on prend une sotra ou une personne. Par exemple, l'imam a terminé, il y a quelqu'un qui est assis, je prends son dos comme sotra. Ensuite, cette personne qui est assise s'est levée. Comment je vais faire? D'abord, je voudrais vous dire que la personne qui est assise, elle n'est pas obligée qu'elle me fasse la sotra. Elle n'est pas obligée. Toi, tu l'as prise comme sotra. Cette personne a affaire. Cette personne, il y a le bus qui l'attend. Cette personne, c'est le travail. Cette personne est fatiguée. Peut-être toi, tu vas rester une heure derrière son dos. Elle n'est pas obligée de t'attendre. Cette personne peut se lever et partir. Naam. Car elle n'est pas obligée de te faire la sotra. Et c'est toi, quand tu l'as prise comme sotra, tu ne lui as pas demandé son avis. Naam. Alors, si cette personne se lève et part, tu es excusé. Car tu as fait la sotra et maintenant, tu as pris le sotra, tu es excusé. N'empêche que, si tu peux reprendre une autre personne, tu peux. Si tu peux aller un pas à gauche, un pas à droite, un pas à l'avant, un peu en arrière, c'est le bi'idna azzawajal. Mais si tu te suffis à cette chose, à cette personne, tu dis, alhamdoulilah, moi, j'ai pris la sotra est partie, Allah ghalib. Ici, c'est Allah ghalib, et Allah subhanahu wa ta'ala t'excusera bi'idna azzawajal. Naam. Tayyib, je dois chercher vite une question ici. Non. Posez-moi la prochaine question pendant que je cherche. Je vais répondre. Une seconde, je suis en train de chercher quelque chose. Ici. Je crois que la façon dont elle a écrit le pseudo, je crois qu'il est faux. Non. J'ai dit le pseudo, si on se trompe seulement une lettre, tout est parti. C'est drôle, pourquoi il n'y a pas? Hier je voyais le... Prie. Une seconde. Pour la soeur à laquelle je devais répondre, c'est pas comme ça qu'elle m'a envoyé la lettre. Quand elle m'a envoyé, c'est pas ce que j'ai voulu. Oui, avoir une force. Non. Parce que hier, là, je l'ai lu. Donc, quand je l'ai lu, c'est que. Je vois pas que c'est comme ça. Non. Je dois avoir un autre chose. Ah, voilà. Voilà, chef. Vous m'avez pas donné le. Là. Vous m'avez pas donné le trait. Le trait joue un grand rôle. Quand tu me donnes pas le trait, ça donne pas. نعم voilà maintenant il est شفت سبحان الله العظيم un très joué un grand rôle بسم الله الرحمن الرحيم un jour alors que j'étais dans la rue un frère est venu me dire qu'un frère cherchait à se marier il m'a dit aussi que s'il était avec sa soeur il me l'aurait envoyé mais à ce moment il était seul Il n'avait jamais vu, il ne m'avait jamais vu auparavant, donc il ne connaissait personne de ma famille. Je lui ai donc répondu que si un jour il me revoyait, alors qu'il est accompagné de sa soeur, qu'il me l'envoie, il m'a répondu ok. Ça y est. Avant cela, est-ce qu'il y a le son, Ta'amallah? Est-ce qu'il y a le son? Jazakallahu khair. Non. Cependant, quelques jours plus tard, il s'avère qu'il connaissait une personne qui lui a donné mon numéro avec mon accord, après mûre réflexion. Il a ensuite transmis mon numéro au frère qui m'a envoyé un texto me demandant l'autorisation de m'appeler, donc je lui ai répondu oui. Nous avons parlé à peu près une heure, et plus particulièrement sur le fait qu'il n'a pas à m'appeler car c'est illicite. Il m'a répondu qu'il ne savait pas quoi faire, donc je lui ai donc reproché de ne pas avoir pris mon nom chez la personne et de venir directement chez moi. Il m'a répondu qu'il ne voulait pas débarquer sans mon accord, mais qu'il était sincèrement désolé qu'il regrettait. En tout cas, nous nous sommes parlé 3 ou 4 fois au téléphone la dernière fois, parce que je lui ai envoyé un texte lui demandant de m'oublier, de ne plus jamais me rappeler, car environ 3 jours avant, j'ai fait sa istikhara. Et il a réussi à me convaincre en me disant qu'il regrettait sincèrement ce qu'il avait fait, et que depuis le dernier appel, on lui avait... depuis le dernier appel qu'on avait eu, il n'avait plus d'intention de m'appeler jusqu'à ce que je lui donne l'accord d'aller voir mon père. Il m'a aussi demandé de bien réfléchir sur ce que je faisais. C'est-à-dire l'affaire, il voulait sincèrement que Moukabela ait lieu et qu'il était persuadé que ça se passerait bien. Donc à la fin, on a décidé de ne plus jamais se rappeler jusqu'à ce que je lui donne le nom de mon père afin qu'il aille le voir. Il a demandé d'aller le voir le plus vite possible et je lui ai répondu non, sachant que je connaissais déjà la réponse de mon père. Que l'arlum serait non, car le frère a 30 ans et moi 18. Chir, il m'a l'air vraiment bien chir, mais la différence d'âge me fait peur. Il est ainsi que ce qui s'est passé, c'est-à-dire les téléphones, car je me suis dit qu'il a osé m'appeler, c'est qu'il ne craint pas Allah Azza wa Jal. Il m'a répondu que c'est le seul moyen qu'il avait trouvé. Dites-moi que faire, j'ai très peur que cette chose illicite qui a eu lieu se transforme en mal plus tard dans notre couple. C'est une relation basée sur du haram, barakallahu fik. Etc. etc. نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين طيب هو la première faute qu'il avait faite c'était d'aller penser à une sœur et de lui parler dans des choses pareilles et la deuxième faute c'est la faute de la ourte qui a accepté de lui parler نعم c'est pareil ensuite la troisième faute c'est quand il commençait à se contacter et la quatrième faute quand elle a accepté, elle l'a contacté ou bien elle l'a laissé contacter. Naam. Ensuite, c'est écrit vers la fin que yani, je lui ai demandé d'arrêter, etc. Ce qui montre que la horte a plus ou moins yani, a plus ou moins peur de Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'elle l'a regretté. Elle sait que si ça continue comme ça, que le mariage risque de tourner, comme on dit, au vinaigre. Naam. Parce qu'il n'est pas basé sur quelque chose de halal. De toute façon, le R, quand il a vraiment l'intention, s'il avait vraiment l'intention, il envoie une sœur. C'est pas lui qui va à la sœur lui parler. Il envoie une sœur, l'âme, sa sœur, sa tante, sa mère, sa voisine. Il l'envoie chez la sœur pour lui parler. C'est pas lui qui va parler à cette sœur, l'âme. Et la sœur, normalement, n'accepterait pas. Il lui dit, je parle avec mon mahram, spécialement, pas avec moi. Non, tu as quelque chose à dire, tu l'as dit à mon frère, Inch'Allah Ta'ala, ou là à mon père, ou là à mon oncle, et lui, il pourra parvenir cette chose à la maison bi-idhnillah azza wa jal. Non, maintenant les frères sont audacieux, les frères sont audacieux, certains frères sont audacieux, certaines sœurs sont plus ou moins faciles. C'est pour ça que ça va toujours dans ce sens, ça va toujours dans ce sens. Mais alhamdoulilah, ce n'est pas, aller aux choses graves, ce n'est pas aller aux choses graves. Déjà que la sœur a regretté et lui a demandé de ne plus lui téléphoner. Non, de demander de ne plus lui téléphoner. Elle dit que ce frère est bien, elle sent qu'elle est bien, mais elle a peur de la différence de l'âge. Moi, je voudrais lui dire, la différence de l'âge n'a rien à voir. 18 et 30 ans, ça n'a rien à voir. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousé Aïcha, elle avait 9 ans. Et lui, il en avait plus de 50. Et elle avait 9 ans. Et Khadija radiallahu ta'ala anha s'est mariée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était plus âgée de lui de 15 ans. L'âge n'a rien à voir, l'essentiel c'est quoi? C'est les affinités. Est-ce que tu sais que quelqu'un qui craint Allah et qui te convient, non, tu peux te marier avec quelqu'un qui est ton âge, le seul monde d'une ou de deux années, et ça ne va pas marcher. Donc l'essentiel, c'est inshallah ta'ala la piété, et c'est s'il a des affinités, un bon comportement, etc. Maintenant, qu'est l'istikhara, si tu as regretté, si tu as vraiment regretté ce qui s'est passé, il faut ne plus lui parler. Ça, c'est le délit que tu as regretté. Si tu ne lui parles plus, tu lui dis là, c'est terminé entre nous, ou bien tu viens chez le mahram, ou bien il n'y a rien. Non, là, c'est le délit que tu as vraiment regretté. Si tu as regretté, Allah Azza wa Jalla pardonne les choses qu'on a faites et qu'on a regrettées. Donc, si tu as regretté vraiment, il ne va plus te parler et tu fais l'istikhara. Pour moi, mon avis, l'âge n'a rien à voir. L'âge, déjà ici, c'est pas beaucoup. Ça n'a rien à voir avec Allah Azza wa Jalla. Mais si ton père n'accepte pas, ça c'est autre chose. Si le père n'accepte pas, il dit j'accepte pas, il est âgé ou là, il convient pas ou là, ça on va rentrer dans un autre problème avec Allah Azza wa Jalla. Je voulais juste te répondre pour l'âge et qu'est-ce que tu dois faire pour lui avoir parlé. Voilà, hawla wa quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il aide et qu'il raffermisse nos cœurs encore plus. Et qu'il marie chacun avec la personne qui le rend le plus heureux billah dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Naam. Khair inshallah. Prochain soual inshallah tafaddal. Une sœur m'avait demandé, je voulais savoir si je prie avec une personne et que pendant la salat, j'ai pas fini ma sourate. Et que la personne, dès que je suis, dois-je la suivre et arrêter ma sourate. Naam. Quand on prie avec quelqu'un, dès que la personne s'incline, on coupe la sourate et on s'incline. Naam. Quand on prie avec quelqu'un, il nous guide. Il est en train de lire et nous, on est en train de lire. Mais dès qu'il coupe lui pour s'incliner, je dois couper. إنما جعل الإمام ليؤتم به إذا قرأ خمسه قال وإذا ركع فركعوا قال le imam a été fait spécialement pour l'imiter, pour le suivre. Il a dit s'il lit, vous écoutez, et s'il descend, s'il s'incline, vous devez vous incliner. Naam. Tafaddal inshallah, prochaine question inshallah. C'est terminé, Inch'Allah, les questions. C'est terminé dans la salle des questions. Peut-on utiliser un pot de fleurs comme sutra? Et on peut, Inch'Allah. On peut utiliser un pot de fleurs comme sutra. Si on n'a rien trouvé, on peut utiliser un pot de fleurs comme sutra. Pourquoi? Car il est assez haut. Il est assez haut. Et ensuite, la plante, ce n'est pas interdit qu'elle soit pas large. L'essentiel, c'est qu'elle soit assez haute. Bi-idhnillahi azza wa jal. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. Encore, inshallah, ta'ala, des questions. les frères et les sœurs qui ont les mains levées, pourquoi vous ne posez pas les questions à ceux qui sont dans la salle? Parce que vu les tekfériens qu'il y a, etc., c'est difficile de donner à quelqu'un la main. Non. Le tekféri va se faire appeler Om Kada et Abu Kada. Et ensuite, quand je lui donne la main, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire des gros mots et il va nous écrire des saletés dans la salle et il va sortir. Salam alaikum, ma question, Inch'Allah. Je compte faire la hijra prochainement, mes deux parents n'acceptent pas. Mon père a 70 ans et suivi un traitement suite à une greffe du foie et ma mère, qui a 60 ans, elle suit régulièrement des petits traitements. Termine, Inch'Allah, la question. Issue numéro 1, qu'on se termine. J'ai une grande sœur qui habite près de chez mes parents et j'ai trois frères qui vivent à proximité. Cette hijra est obligatoire pour moi et ma femme, sachant que nous ne pouvons pas pratiquer notre religion pleinement. Naam, elle est obligatoire. Car ce n'est pas obligé pour toi de rester avec ton père et ta mère tant que les autres existent. Tant que les autres existent. Et qu'ils vont voir ton père et ta mère. Et ils n'ont pas encore, il n'y a pas les liens coupés. Ils vont rendre visite à ton père et ta mère. Eux, ils seront obligés, puisqu'ils ne veulent pas faire la hijra. Ce sont eux qui vont s'occuper d'eux. Bi'idhnillahi azza wa jal. Naam. Et vous, Inch'Allah ta'ala, vous faites la hijra. Parce que on doit se sauver avant de sauver un autre. Non. Avant de sauver un autre, on doit se sauver. Non. Avant de sauver une autre personne, je dois me sauver moi de l'enfer. Ensuite, je vais sauver mon père ou ma mère de l'enfer. Non. Wallahu azza wa jalla a'lam. Tafadhal. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Alhamdulillah, donc c'était la salle, Allah subhanahu wa ta'ala alam. C'est la salle qui faisait ainsi. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Tayyib. Qu'avez-vous à dire aussi sur la prière d'aujourd'hui? Qu'avez-vous à dire? Vous n'avez pas des questions sur la prière ou de ce que j'ai dit? Tfadl, ta'amallah, tfadl. Lorsque je mets le tapis pour faire la prière, mon chat vient toujours s'allonger à côté ou passe devant moi, entre toi et moi. Mais le problème, même quand je le pousse pour me prosterner, elle revient. Est-ce que cela pose problème ou je peux laisser? Non. S'il vient s'allonger à côté, ce n'est pas un problème. Non, le chat, s'il vient se poser à côté, ou la s'allonger, ou la monter même sur ton dos, ce n'est pas un problème. Parce que innahunna min tawafat alaykum. Ce sont des animaux qui yani passent, qui sont tout le temps avec nous, et elle n'est pas souillée. La chat n'est pas souillée, ni elle ni sa langue. Mais elle ne doit pas passer entre toi et la sutra. Naam, tu dois faire ton possible pour qu'elle ne passe pas entre toi et la sutra, ou bien de l'enfermer avant de faire la prière, de l'enfermer dans une chambre avant de faire la prière, ou bien que ce soit toi qui t'enfermes dans une pièce avant de faire la prière, si tu sais que c'est le genre qui passe entre toi et la sutra. Maintenant, si elle ne passe pas, juste elle s'allonge à côté de toi, ce n'est pas grave, bi'idhn azza wa jal. Elle s'allonge pas entre toi et la qibla, mais elle s'allonge à ta gauche ou à ta droite, ce n'est pas un problème. Ou là, elle monte sur ton dos, sur ta tête. Ce n'est pas un problème. Mais si elle passe, c'est interdit. C'est interdit qu'elle passe entre toi et la sutra. Donc, Inch'Allah Ta'ala, prends tes précautions avant de dire Allahu Akbar. Naam. Allahu Ta'ala, a'alim. Tfadl, Inch'Allah. Ma première question traite du sujet de cette salat nabi. Vous avez parlé des personnes qui se trompent dans la salat et qui la recommandent. Mais que faire si on rentre dans la salat sans avoir fait l'iqama et qu'on se rend compte tout de suite après takbir? Si on se rend compte tout de suite après takbir qu'on a fait l'iqama, on a oublié l'iqama, pardon, on ne peut pas couper la salat. Naam. On termine bi'idna azawji. Car la iqama n'est pas une condition nécessaire. Ça veut dire que ce n'est pas une condition nécessaire. La iqama, ce n'est pas comme le wudu. Le wudu, c'est une condition nécessaire pour la salat. Le takbir, c'est une condition nécessaire pour la salat. La iqama, non. À cause d'elle, on ne peut pas couper la salat et revenir vers elle pour la faire. Naam. On l'a oublié, on a dit Allahu Akbar, c'est terminé. On termine normalement. Allah subhanahu wa ta'ala te comptera, inshallah ta'ala, que tu l'as fait. Parce que tu avais l'intention, tu l'as oublié. Rabbana la tu'akhidna inna sina wa akhta'na. Naam. Wallahu azza wa jil a'lam. Tayyib, prochaine question, inshallah. La seconde concerne la femme qui prend l'avis des savants qui pense que le sitar est obligatoire. A-t-elle le droit de m'enlever devant son beau-frère en présence de son mahram? La troisième question est plus délicate. Elle est sur votre boîte Gmail. Allahumma ja'alna ja'alaka min shuhada wa yawma yumeetuka fi madinati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Amin. Jazakallahu khair. Toute façon, cette phrase, cette dernière phrase, où c'est écrit وَيُمَيْتُكَ فِي مَدِينَةِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, ça, je l'ai vu dans le Gmail, je l'ai vu. Mais maintenant, je ne me rappelle pas c'est quoi la question. Inch'Allah ta'ala, je la verrai après. Ça y est, pour... ça y est, une seconde, non. Quant à la première question, si une femme dit que le prend de la vie, que le sitar est obligatoire, elle ne peut pas montrer son visage à son beau-frère. Ça devient haram. Non. Ça devient haram si elle montre son visage à qui? À son beau-frère. Pourquoi? Parce que elle s'est dit que c'est haram. Elle s'est dit que c'est haram de le montrer. Donc même devant son, même avec l'accord de son mari, elle ne peut pas lui montrer. Pourquoi? Parce que c'est haram. Ça, c'est aura entre elle et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'elle ne peut pas. Naam. Voilà pour la première question. Parce qu'elle s'est dit, donc c'est obligatoire, donc elle ne peut pas montrer son visage à personne. Sauf, bien sûr, à, comme vous devez le savoir, à, yani, au maharim, naam. Oui. Autre chose, inshallah ta'ala. Non. La deuxième question dit. Je réponds à la deuxième question, je l'ai maintenant ici devant Gmail. La deuxième personne dit un homme musulman assez âgé de mon quartier est marié à une française depuis 30 ans. Son frère et son épouse sont très malades. Son frère de son épouse est très malade. En revanche, cet homme malade est un kafir. Le frère demande s'il commet un mal en allant le voir malgré qu'il ne l'aime pas. Naam. Celui-là, il peut aller bi'idnillah azza wa jalla le voir. Naam. On a le droit d'aller voir un kafir quand il tombe malade. Mais on fait quoi? On met dans l'intention que yani, c'est pour l'islam. C'est pour peut-être que il va yani, réfléchir ou là, ça va le pousser à ce qu'il rentre en islam. Le délire, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait rendre visite à un juif qui était malade. Il y avait un juif qui était malade, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé le voir. Et il lui a demandé de rentrer en islam. Et le père du juif, le père du petit juif, a dit à son fils, obéis à Abu al-Qasim, obéis à Abu al-Qasim, et il est rentré en islam. Donc on peut aller voir un mécréant quand il est malade, mais à condition, c'est pas parce qu'on l'aime, c'est haram de l'aimer, mais à cause de l'islam, je me dis dans ma tête, peut-être inshallah ta'ala, ça va le pousser à rentrer en islam, quand il va dire subhanallah. Il y a des gens, des mécréants qui ne sont pas venus me voir. Celui-là, c'est un musulman, il est venu me voir, hein, surtout si tu as l'occasion de lui parler de l'islam, et idnillahi azza wa jal. Et que, naam, voilà, inshallah ta'ala, la réponse. Et que la sœur, inshallah ta'ala, me dise si c'est celle-là, la deuxième question. Qu'elle m'écrive avec, qu'elle écrive à la sœur, elle me dit si c'est celle-là la question, la deuxième question, inshallah ta'ala, naam. Ça y est. C'est à qui la question maintenant? Maintenant, Oum Souleymane du 13 et Bent Hashmi ont écrit les deux à la fois. Les deux filles ont écrit à la fois. Naam. Allah al-Azim. On va voir maintenant le vrai et le faux. Salam alaikum wa rahmatullah. Ça ne fait rien. Parce que Bent Hashmi avait posé avant. J'aimerais savoir s'il existe le hadith qui dit que si la personne savait le péché qu'elle aurait, si elle passe devant une personne qui prie, cette personne préférerait le tour de la terre pour passer de l'autre côté. Non, il n'y a pas un hadith comme ça. S'il y a, il n'est pas vrai. Il n'est pas authentique. Naam. L'authentique, c'est celui que je venais de citer, qu'il attendrait 40. C'est ça le hadith authentique. Mais faire le tour de la terre n'est pas un vrai hadith. Je ne l'ai jamais lu dans ma vie. S'il existe, il n'est pas vrai. S'il existe, naam. Le vrai hadith, c'est celui de 40. Inch'Allah ta'ala. Ça y est, avant de vous répondre, alors pour une seconde. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'ai un chat noir chez moi et subhanallah, chaque fois que je m'apprête à faire ma prière, il vient me troubler jusqu'au point où je me pose des questions à voir si c'est pas un shaitan. Que me conseilleriez-vous? Naam. De toute façon, quand il est vraiment, vraiment noir, le chat, il n'est pas, il fait peur. Hein? Quand il est vraiment, vraiment noir, tout noir, s'il a quelques taches, genre nous là, ça ne fait rien. Mais s'il est vraiment noir, c'est vraiment, il fait peur, hein, le chien et le chat noir. Tout ce qui est noir comme ça, ça fait peur. El Mouhim, je conseille seulement de l'enfermer avant de faire la salat. Avant de faire la salat, je l'enferme pour être sûr qu'il ne vienne pas me troubler. Car le shaitan, il peut pousser le chat à venir. Naam. Comme il peut pousser, dans le hadith sahih, il peut pousser la souris pour que elle fasse tomber le, je sais pas comment ça s'appelle, où il y a le feu et ça brûle la maison. Autrefois on mettait le feu dans une quelque chose comme ça en verre, on mettait de la colle en bas et on allumait cette chose en verre, comme une lampe comme ça en verre. Le shaitan va chez le rat, une sorte de bougie. Non, mais c'est pas une bougie de nos jours. C'est quelque chose en verre, minzoujaj. On appelle en arabe le kenki, on dit kenki. En Algérie, on dit kenki. On met de l'alcool en bas et on allume. On allume. De toute façon, il y avait autrefois la lanterne, jazakallah, la lanterne. La lanterne. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le shaitan, des fois, allait vers le rat ou la souris et il la pousse, il lui fait des ouswas jusqu'à ce qu'elle vienne renverser la lanterne. Et la lanterne brûle le tapis et la maison a brûlé. Donc le shaitan, il cède comme ça par des petits animaux pour faire des problèmes. Donc enferme-le, inshallah ta'ala, ou bien tu t'enfermes toi dans la salat, dans une pièce. Faire la salat, c'est quelque chose de très important. Même, c'est une chose très importante. Avant de commencer la salat, on doit prendre nos précautions. Prends tes précautions. Mets l'enfant au lit. Yani, ferme la pièce. Ferme la chambre où il y a les enfants, ferme la chambre où il y a le chat, etc. Et on prend ce qu'il faut faire. Et on, On se prépare, on se prépare, on va rentrer, yani, à Allah subhanahu wa ta'ala, on va rentrer chez Allah subhanahu wa ta'ala. On va pas rentrer chez Allah perturbé. Avant de rentrer dans le bureau du grand responsable, on se prépare 2 ou 3 heures à l'avant, à l'avance. On s'habille bien, on va se coiffer, on va mettre un parfum, on va, je ne sais pas quoi, avant de rentrer chez lui. Non, maintenant tu vas rentrer chez Allah subhanahu wa ta'ala. Il prend ses précautions. Ensuite, Inch'Allah, il commence la salat pour ne pas être perturbé. Naam. Fadal, Inch'Allah, prochaine question. Naam. Puis-je savoir si les questions des gens qui lui ont envoyé des mails vont avoir leur réponse? Naam, dis-moi qui tu es, je te rends la réponse, Inch'Allah. Dis-moi qui tu es, je te rends la réponse. Et la sœur qui m'a dit en yumitaka fi madinati Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Est-ce que c'est celle-là la deuxième question à laquelle j'ai répondu? Est-ce que c'est celle-là la deuxième question à laquelle j'ai répondu? C'est-à-dire le malade qui est kafir. Si c'est oui, elle me dit oui comme ça, j'efface sa lettre de mon courrier. Barakallahu fikoum. J'ai appris récemment qu'il fallait faire le soujoud les yeux fermés. Mes chers, je n'arrive pas. J'ai appris récemment qu'il fallait faire le soujoud les yeux fermés. Mes chers, je n'arrive pas à trouver le khushou avec les yeux ouverts. Ma question, est-ce que je peux? Est-ce que je rentre dans la bida si je continue à prier avec les yeux fermés? Ça y est, c'est étonnant, cette question est étonnante. Car je suis sûr que celui qui l'a écrit s'est trompé, ou la Ilyas Abouane s'est trompé. Car la question dit, j'ai appris récemment qu'il fallait faire le soujoud les yeux fermés. Subhanallah al-Azim. Il veut dire le contraire. J'ai appris récemment qu'il fallait pas faire le soujoud les yeux fermés. D'ailleurs, il se contredit à la fin. Il dit, est-ce que je rentre dans le bilal si je continue ma prière avec les yeux fermés? Non. Ça veut dire que il a appris que on ne doit pas fermer les yeux dans le soujoud. Et maintenant, il a pris l'habitude à chaque fois de fermer les yeux. Il dit, comment je vais faire? On lui dit, Inch'Allah ta'ala, tu fais le maximum pour ne pas les fermer. Fais le maximum. Si tu dois un peu les fermer, ça ne fait rien. Mais tu vois ce qui se passe devant toi. Tu vois l'endroit où tu vas te prosterner. Soujoud. Comme faisait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il regardait avec ses yeux l'endroit où il allait se prosterner. De toute façon, si tu les fermes, peut-être tu ne rentres pas dans le haram, mais au moins tu rentres dans le makruh. Au moins tu rentres dans quelque chose de déconseillé. De déconseillé, naam. Il faut, Inch'Allah ta'ala, pour enlever cette habitude, il faut toujours, avant de dire Allahu Akbar, yani tu te dis, voilà, je sais que maintenant je vais faire la prière, et je sais que j'ai telle faute dans la prière, et donc je dois me corriger. Comme ça tu apprendras à casser les habitudes. Naam. Mais si tu rentres comme ça directement dans la salle, tu vas oublier. Mais avant de dire Allahu Akbar, dis-toi d'abord, c'est quoi ma faute? Ah oui, ma faute c'est quoi? Je ferme les yeux. Maintenant, Inch'Allah ta'ala, je vais faire le djihad à mon âme pour lui apprendre à ce qu'elle obéisse et elle ne fasse pas les choses que Allah Azza wa Jalla n'aime pas. Naam. Et comme ça il fera le djihad quand il oublie la ghalib. Et quand il se rappelle, il fait le djihad jusqu'à s'il ouvre ses yeux, bi-ibnillahi azza wa jal. S'il peut pas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. S'il a essayé, il peut pas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, mais il doit toujours essayer. Il ne dit pas, khlas, je peux pas. Il essaye, s'il peut pas, Allah azza wa jal ne va pas lui donner des ithm. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. La prochaine question, Inch'Allah. Tayyib. Ma soeur ne m'a pas encore répondu. Attends, on va voir. Est-ce qu'elle va dire ici? Nabila. Naam, si comme Abdallah a dit, c'est urgent, Ourti, la piscine pour le problème santé. Naam. Ourti, si j'avais la réponse, je t'aurais déjà répondu. Wallah. Si j'avais la réponse, je t'aurais déjà répondu. Je sais que la Ourti a dit, est dans un cas yani de assez grave et urgent et qu'elle voudrait avoir une réponse très vite. Mais moi, jusqu'à présent, je n'ai pas comment lui donner la réponse. Non, je n'ai pas comment donner la réponse. J'ai entendu la réponse hier. Tfadal, Elias, tu as entendu la réponse, donne-la-moi. C'est quoi la réponse? Tu as entendu la réponse de la piscine, donne-la-moi. Écris-la, Inch'Allah, la réponse. C'est quoi la réponse? Ah, pardon, mais pas sur celle-là. Allah yahdik ya Bouanes, Allah yahdik. Amin, amin. Non. Je dis à ma soeur que pour l'instant, j'ai pas encore la réponse. Mais si elle veut, sur mon blog, j'ai quoi? J'ai les numéros des ulama. Si elle peut téléphoner à ses ulama, Inch'Allah ta'ala, qu'elle prenne un des numéros des quatre ou cinq grands savants. Moi, j'attends que Yani, j'ai l'occasion de parler avec l'un de ces ulama. J'attends, Inch'Allah ta'ala, que j'ai l'occasion de parler. Je ne peux pas comme ça dire de ma tête. Je ne peux pas. D'ailleurs, toi, Inch'Allah ta'ala, tu as dit dans Westmo, dans ton courrier, dans la lettre, que tu avais téléphoné, hein, et que je crois qu'on allait prendre la réponse en ce qui concerne, est-ce que Yani, il y a des moments où Yani, il n'y a pas beaucoup d'hommes ou quelque chose comme ça. Dis-lui comment je fais, j'appelle Ramadani. Naam, appelle Ramadani. Appelle Abdel Malik Ramadani. Naam, appelle-le bi-Ibn Azzawajal. Appelle-le bi-Ibn Azzawajal ou appelle un autre. Mouhim, appelle quelqu'un qui puisse, Inch'Allah ta'ala, te donner une fatwa. Inch'Allah ta'ala. Et moi, Inch'Allah ta'ala, dès que j'ai quelque chose, je te contacte bi-Ibn Azzawajal. Naam. Allah, je n'ai rien fait. Elle me dit, c'est très gentil que Allah vous récompense. Je n'ai rien fait. Si je pouvais, je faisais plus que cela. Non, si je pouvais, je ferais plus que cela. Et ça me dépasse. Non. Oui. C'est à qui, Inch'Allah ta'ala, la question. Il reste 20 minutes, bi'idhnillah. Il reste 20 minutes. C'est à qui, Inch'Allah ta'ala, la question. Ou là, les sœurs qui m'ont écrit, les sœurs qui m'ont écrit au courrier. Si elles sont là, elles disent, c'est quel pseudo? Elles le disent comme ça en anonymat. Elles le disent à Binti Hashimi, par exemple, elles m'écrit à moi-même. Dites-moi seulement, c'est qui le pseudo? Est-ce que le fait de se tromper dans la récitation de sa sourate fait annuler la prière? Non, ça n'annule pas la prière. Ça n'annule pas la prière bi-idhnillahi azzawajal. Non, ça n'annule pas la prière bi-idhnillahi azzawajal. On rectifie, on termine. On rectifie, on termine. Ça y est, maintenant, il y a pseudo kada kada. Non, ce pseudo, je me rappelle très bien ce pseudo. Non, ce pseudo commence par A et qui se termine par T. Je le connais très bien. Je me rappelle même la question. Une sœur dit que certaines familles ou là ont l'habitude que la fille, le mois où elle va se marier, ses parents lui donnent des pilules. Elle doit, bi'idhni ta'ala, yani, prendre des pilules. Pourquoi? Pour éviter que la nuit nuptiale, que la nuit qu'il y ait, yani, que la femme soit indisposée. Donc, si elle prend les pilules, bi-idhni azza wa jal, yani, elle risque, ou bien, yani, elle fait en sorte pour ne pas gâcher la nuit. Naam. Elle dit, est-ce que, yani, ça c'est vrai? Ensuite, elle dit, est-ce que si on ne les prend pas, sans que la famille sache? La réponse, bi-idhni azza wa jal, ça ce n'est pas une question de vrai ou de ne pas vrai. Ça, c'est, yani, tout le monde sait que cette nuit, la nuit nuptiale, yani, la femme doit choisir une date yani, où Inch'Allah ta'ala, elle est sûre qu'elle n'aura pas les monstrues. Elle doit choisir une date au milieu. Elle ne choisit pas à la fin. Ensuite, il y a des monstrues. Elle choisit au milieu aussi, sûr, bien azzawajal, elle n'a pas. Maintenant, si elle est une femme qui est déréglée, elle ne peut pas savoir quand est-ce qu'elle vient, elle ne vient pas, etc. Et si elle prend les pilules, ce n'est pas interdit. Si elle prend les pilules, elle sait qu'elle les prendra seulement, par exemple, ce mois, pour éviter de gâcher la nuit, qu'elle les prenne. Non, ce n'est pas interdit. Si les pilules, bien sûr, ne lui font pas mal. Si les pilules ne lui font pas mal. Alors, il y a des pilules qui font mal, bien sûr. Donc, Inch'Allah ta'ala, si elle sait que elle est bien réglée, et que normalement, elle va choisir la date de façon à ce que cette nuit-là ne soit pas indisposée, c'est pas la peine des pilules, non, c'est pas la peine. Mais si elle sait qu'elle est déréglée et qu'il est possible que l'akhor vienne, les monstres viennent la nuit, il est possible qu'elle vienne, donc pour éviter de gâcher la nuit, elle prend des pilules, c'est tout. Mais beaucoup de femmes, la nuit de noces, ont eu leur monstre. Ça arrive de temps en temps. Non, ça arrive. Qaddara Allah ma sha fa'al. Non, qaddara Allah ma sha fa'al. La femme est toujours avec lui, qui patiente, bi'idhna zawji. Mais de préférence, on prend les précautions pour éviter qu'il y ait des monstres cette nuit. On prend de préférence pour ne pas prendre les précautions pour ne pas gâcher la nuit, bi'idhnillahi azawji. Voilà, inshallah ta'ala, la réponse. Non. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Est-ce qu'il y a, inshallah ta'ala, une autre question? Une question dans la salle. Et avant de lire la question, une seconde, je cherche quelque chose ici dans le courrier. Une seconde, il n'a rien à dire. Non. Je reviens, Inch'Allah ta'ala, à la salle. Que dire d'une personne, une personne qui dit j'ai pas envie de prier car j'ai le temps pour ça. Après avoir prié, je sais pas lui, puis j'écoutais un das pour faire mes devoirs d'école, je suis bien obligé de dormir tout de suite. Ben Tash, mais la question n'est pas juste. Il manque quelque chose dans la question. Non, il manque quelque chose dans la question. Parce que c'est écrit quoi? Que dira une personne qui dit j'ai pas envie de prier car j'ai le temps? C'est pas juste. Non, c'est pas juste la question. Peut-être qui dit j'ai pas envie de prier car j'ai pas le temps. C'est pas car j'ai le temps. Donc, je ne sais pas comment je vais répondre. Frère, elle veut dire. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Non. Qu'elle se dit c'est bon. Frère, elle veut dire non. Qu'elle se dit c'est bon, je le sens. C'est-à-dire, une personne qui dit j'ai pas envie de prier. J'ai pas envie de prier car j'ai le temps. Ah, car j'ai le temps pour ça. Naam, naam, naam. Je prie plus tard. Naam, barakallahu fik, j'ai compris. Ah, j'ai compris. Une seconde. Je vais voir ce qui est écrit ici. Une seconde, je reçois des PV. Chauffe pour les sœurs qui sont en train de m'envoyer, yani de dire voilà leur pseudo, comment qu'elles s'appellent, leur pseudo. Non, je préfère par exemple qu'elles envoient toutes à une seule sœur. Par exemple, elles envoient Ourt Salafia, parce que chacune maintenant est en train d'envoyer à une sœur. Donc chaque sœur va m'envoyer un PV. Donc chaque PV, je dois l'ouvrir. Donc j'ai la barre ici pleine de quoi? Pleine de pseudo comme ça. Et ça va être difficile. Parce que si vous choisissez une seule sœur pour Salafia, vous lui envoyez toutes. Vous toutes, vous lui envoyez les pseudos. Et elle les classe. Voilà, pseudo, hada, pseudo, hada, hada, hada. L'un au-dessus de l'autre. C'est plus facile pour moi. Inch'Allah khair, inch'Allah khair. Je reviens à la question. Salam alaikum, que dire à une personne qui dit j'ai pas envie de prier car j'ai le temps pour ça. Ça y est. Une personne n'a pas le droit de dire j'ai pas envie de prier car j'ai le temps pour ça. Naam. Une personne peut dire Inch'Allah je vais prier. Yani je vais un peu retarder ma salat à cause de je termine cette chose ou cette chose. Ça ce n'est pas grave. Naam. Surtout une femme qui est à la maison. Elle dit juste je termine par exemple le manger et je prie. Juste je termine de laver les vêtements ou les assiettes et je prie. Ça, c'est normal. C'est possible. Surtout si la prière, yani, elle a beaucoup de temps. Comme la prière de Dhuha, la prière de Asr, naam. Mais elle n'a pas le droit de dire que j'ai pas envie de prier. Naam, ça se dit pas. Après avoir prié chaque nuit, puis-je écouter un dars sur mes devoirs d'école ou bien suis obligé de dormir tout de suite? Naam. En général, la règle c'est que quelqu'un après le chef al après la Aïcha, il fait le chef al et il dort, en préférence. Mais s'il a des choses qui ne sont pas haram, comme il écoute un dars, ou là il a eu des invités, ou là, il est possible. Hein? Ce qui n'est pas bien, c'est de parler dans des choses futiles, dans les futilités, et rester comme ça en train de parler, ou là en train de voir la télévision, je ne sais pas quoi. Ensuite, il va dormir et il ne va pas se lever à Salat al-Fajr. Mais s'il a des devoirs, Inch'Allah Ta'ala, ou bien il écoute un dars, ou là il est avec des invités, quelque chose comme ça, Inch'Allah Ta'ala, c'est possible. Naam. On me dit que pour la question présente, en fait, la personne ne prie pas du tout. Naam. Et donc elle dit, j'ai pas le temps. C'est pas j'ai le temps. Elle dit, j'ai pas le temps pour ça. Donc, la question a été mal formulée. Non, jusqu'à présent, je ne sais pas ce que ça veut dire, en fait, la question. Je ne sais pas ce qu'elle veut dire. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que j'ai pas le temps pour prier. J'ai pas envie de prier car j'ai pas le temps pour ça. Allah Alam, c'est comme ça. Non. Qu'est-ce qu'on dit à une personne qui dit j'ai pas le temps? On lui dit Allah Yahdik. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit Allah Yahdik. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de t'aider, car si tu meurs sans la prière, tu as tout perdu. Quelqu'un qui meurt sans la prière, c'est pas la peine qu'il attende quelque chose d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, qu'il meurt sans la prière. Surtout qu'il ne l'a jamais faite. S'il la faisait, il l'a laissé, c'est très très grave. Mais c'est plus ou moins comparé à celui qui n'a jamais. C'est jamais prosterné dans sa vie. Celui-là, s'il meurt, Cheikh Islam a dit, c'est un kafir. Non, c'est un kafir à 100%. Il n'a jamais prosterné une seule prosternation. Non. Donc, et la salat, c'est la première chose dont Allah Azza wa Jalla va poser la question. Première des choses, montrez-moi votre salat. Montrez-moi, il dira à chacun, montre-moi ta salat. La première des choses, c'est la salat. Si tu as la salat, tu l'as fait à l'heure, avec humilité, et surtout à l'heure, Inch'Allah Ta'ala, tout ce qui viendra après, plus ou moins grave. Et s'il n'y a pas la salat, c'est très grave. Très, très, très grave. Il n'y a pas plus grave que cela. Naam. Pour la sœur qui devait travailler, elle devait ôter son jilbab à cause du travail. Quel est son statut? Wallah al-Azim, je n'ai pas encore la réponse. Naam. Et si j'avais la réponse, je lui aurais déjà répondu. Je n'ai pas encore pu avoir la réponse de Ibn Azal, car je dois demander à un alim. Je dois demander cette question à un alim. Et je n'ai pas encore eu cette occasion de Ibn Azal. Naam. Je n'ai pas eu encore cette occasion de Ibn Azal. cherche un message ici. Est-ce que vous demandez à la sœur qui m'a envoyé ici son pseudo, est-ce que c'est elle qui parlait de Nam? Dans son mail, elle parlait de d'une question de la part de mon père, qui a une fille d'un premier mariage, donc ma demi-sœur. Depuis toujours, il n'a pas été satisfait d'elle. A renié son père, lui a volé des biens, a fait du mal, etc. Est-ce que c'est là la question, Inch'Allah Ta'ala? Est-ce que c'est là la question, bi'idhnillah Ta'ala? Naam. La personne qui a dit que Allah vous fasse mourir dans la vie du prophète est un frère. Il vous dit que vous pouvez, c'est parce que la question du kafir malade, mais il vous envoie aussi un jimet dans lequel il y a une question importante pour du logement. Il vous demande si vous pouvez de répondre par jimet. Barakallahu fi. Naam, Inch'Allah Ta'ala, je lui répondrai. Bi'idhnillah Azzawajal. Qu'il attende un peu, je lui répondrai. Inch'Allah. Vous voyez, autre chose. Il y a une soeur qui demande une réponse en mail. Et je vais voir, Inch'Allah Ta'ala, s'il y a cet email chez moi. Allah, je suis partout, ça. Astaghfirullah wa la hawla wa la quwwata illa billah. C'est quoi la question dans la salle? C'est quoi la question dans la salle? Assalamu alaikum. Peut-être que toi tu sais. J'ai envoyé cette question aux autres sœurs, ils ne l'ont pas posée au chef. Si l'imam se trompe, doit-on le suivre ou finir notre prière seul? Ça dépend en quoi se trompe l'imam. L'imam, ça dépend en quoi il se trompe. Naam. S'il se trompe, on le suit, mais ça dépend en quoi il s'est trompé exactement. Naam, ça dépend. C'est un peu difficile de répondre comme ça. Il faudrait donner des détails en quoi il s'est trompé. Je donne un exemple. L'imam, il ne s'est pas assis pour faire le tashahhud. Il va faire salat d'or. Au lieu de s'asseoir à la deuxième et de faire le tashahhud, il s'est trompé, il s'est levé. Qu'est-ce qu'on fait nous? On ne fait pas le tashahhud. On est obligé de se lever avec lui. Et ensuite, lui, avant de dire salam alaikum, il va faire deux prosternations à l'intérieur de la salat. On va faire avec lui, on dit salam alaikum. Il s'est trompé, on l'a suivi. Mais ça dépend en quoi il se trompe. Non, ça dépend en quoi il se trompe. Si on a terminé les quatre rak'at, ensuite lui, il se lève pour la cinquième. On le fait asseoir. On lui dit subhanallah, subhanallah, jusqu'à qu'il s'assoie bi'idhnillahi azzawajal. Non. Taïb. J'ai une question de la part de mon père qui a une fille d'un premier mariage, donc dans ma demi-sœur. Depuis toujours, il n'a pas été satisfait d'elle, a renié son père, lui a volé des biens, a fait du mal à ma famille, a coupé les liens avec lui et ne lui rend pas visite, ni ne lui téléphone lorsqu'il est malade. Il voudrait savoir quelle serait sa part par rapport à ses enfants du second mariage concernant l'héritage. Peut-il la déshériter? Si oui, cela doit-il apparaître sur le testament? Ou qu'est-ce que recommande le Coran et la Sunna à ce sujet? Concernant l'héritage, quelle sera la part de ma mère sur les biens de mon père par rapport à ses enfants? Une dernière chose, mon père peut-il vendre entièrement une maison à l'un de ses enfants à prix cassé, ensuite sa valeur réelle, sachant qu'il se l'aurait pour quelqu'un d'autre, il aurait vendu beaucoup plus cher. Peut-il faire donc gratuit d'un terrain à l'un de ses enfants, sachant que tous les autres sont d'accord? Oui. Pour la demi-sœur Haradi, qui est A'udhu Billah, qui en est A'udhu Billah pour son comportement, hein, celle-là, quand elle va mourir, si elle ne fait pas le repentir, elle va trouver Allah subhanahu wa ta'ala courroucé d'elle. Non. Elle va trouver Allah azza wa jal courroucé d'elle. Non. Bon, Hada, khlas, ne parlons pas de ce côté. Vous devez savoir quelle serait sa part par rapport à ses enfants du second mariage concernant l'héritage. Les enfants d'un premier et second mariage ont toujours la même part dans l'héritage. Naam. Un enfant de la première femme et l'enfant de la deuxième femme sont égaux dans le mariage, et l'enfant de la troisième femme sont égaux dans le mariage. Les enfants ont toujours les garçons ont toujours le double de la fille. Naam, toujours le double de la fille, et il n'y a pas de différence entre les enfants de la première femme ni les enfants de la quatrième femme. Peut-il la déshériter? Il ne peut pas la déshériter. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a donné. Naam, il ne peut pas la déshériter. Il peut, s'il veut, il peut vendre par exemple. Il n'est pas obligé de laisser de l'héritage. S'il veut tout vendre, il vend. Naam, s'il peut tout vendre, il vend. Il est libre. Naam, mais il ne peut pas écrire quelque chose pour dire que cette personne ne doit pas mériter. Malgré que elle est désobéissante. Naam. Quelle sera la part de ma mère sur les biens de mon père par les enfants? La mère prend le 1/8. La mère prend le 1/8. Pourquoi? Parce que le père s'est marié à ses enfants. Quand un homme a des enfants, sa femme prend le 1/8. Si elles sont deux femmes, elles se divisent le 1/8. Si elles sont trois femmes, elles se divisent le 1/8. Et si elles sont quatre femmes, elles se divisent le 1/8. Toujours 1/8 pour toutes les femmes. Si elle est une seule, elle le prend seule. Si elles sont deux, elle le divise. Mon père peut-il vendre un terrain ou une maison à l'un de ses enfants tricassés en dessous de sa valeur, sachant que si ça aurait été pour un autre, il aurait vendu plus cher? Il ne peut pas. Non. S'il vend un prix cassé, il vend à tout le monde un prix cassé. Il ne fait pas de différence. S'il vend, il vend à tout le monde, à tous les enfants au même prix. Non. Il ne vend pas à quelqu'un cher et à quelqu'un de pas cher. Il est obligé d'être juste. Peut-il faire un don gratuit d'un terrain à l'un de ses enfants, sachant que tous les autres enfants sont d'accord? Non. Il peut. Il rassemble tous ses enfants et il leur dit, celui-là, je veux lui donner par exemple. Est-ce que vous acceptez? Si tous ils disent oui, on accepte, il peut. Tous ils disent oui, on accepte. Il peut. Naam. Sachez qu'il manque la vie de notre demi-sœur. Elle dit, elle est divorcée de la première. Elle est divorcée. J'ai pas compris, elle est divorcée de la première. Bethesh, mais réécris ta question. Je l'ai fermé. Réécris ta question. Il est divorcé de la première. Naam. S'il est divorcé, c'est fini. Donc, elle prend le 8e toute seule. Elle prend le 8e toute seule. S'il est divorcé, elle prend le 8e toute seule. Alhamdoulilah. Cher, ça c'est qu'il manque la vie de notre demi-sœur qui a coupé des liens avec nous. Et il est quasiment presque sûr qu'il refuserait que leur terrain soit donné à mon père. Est-ce que son avis compte? Non. Ça, c'est un peu difficile de répondre à la dernière question. Et je ne sais pas son avis s'il compte vraiment, car certains ulama ont dit que lorsque quelqu'un fait des dons, il partage entre ses enfants, certains ulama ont dit qu'il pouvait préférer certains par rapport à d'autres, d'après quoi? D'après leur piété. Certains ulama ont dit comme ça. On dit, quand il va donner à celui-là, il sait que c'est quelqu'un désobéissant, quelqu'un qui va boire de l'alcool avec l'argent, etc. Et l'autre, quelqu'un de pieux, quelqu'un, ils ont dit, il peut donner au pieux beaucoup plus qu'il ne donne à l'autre. C'est-à-dire quand il est en vie. Non, quand il meurt, ils sont égaux dans l'héritage. Mais quand ils sont en vie, certains ont dit que il peut donner un peu plus pour privilégier, par exemple, celui qui est pieux, etc. Donc, ça demande un peu de recherche. Allah subhanahu wa ta'ala, je chercherai encore plus sur la vie de cette perverse. Je l'appelle la perverse, la désobéissante. Elle n'est pas seulement désobéissante, mais elle est rentrée dans la perversité. Ou l'ayyadu billah. Naam. Tayyib. Quelqu'un m'a demandé. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Il est 23h. M. Souleymane dit il est 23h. Et il avait posé des questions de deux auxquelles il avait répondu et deux qui du recours pour l'invocation du Qur'an. Si on peut lever les mains, et deuxième question sur lequel je réponds. Naam. Pour le Osmo. La question dit, au sujet du ruku, pour l'invocation du qunut, si on peut lever les mains. Naam, on peut lever les mains quand l'imam lève les mains. Quand l'imam lève les mains, si on est derrière lui, quand il fait le qunut, on lève les mains. Quand on est seul à la maison, on ne lève pas les mains. Naam. Mais quand on est derrière l'imam et il lève les mains, on peut, inshallah ta'ala aussi, lever les mains avec lui. Bi'idhnillah azza wa jal. Et pour l'autre question, et est-ce qu'on peut sortir d'une prière surrogatoire si on est appelé par son mari? Naam. On sort si on sait que, ce mari, si on ne va pas sortir, il va faire des problèmes. Naam. Si on sait que ce mari, s'il ne va pas sortir, il va faire des problèmes. Naam. Faire la prière surrogatoire n'est pas obligatoire et obéir à son mari est obligatoire. Mais si on sait qu'Inch'Allah Ta'ala c'est quelqu'un qui ne fait pas des problèmes, yani, on dit comme ça un peu fort Allahu Akbar pour qu'il sache qu'on est dans la salat, on l'a fait d'une façon un peu Inch'Allah Ta'ala plus vite. Que Allah vous réconcilie, nous couvre sa miséricorde. Amin. Pour moi et vous toutes et tous, Inch'Allah Ta'ala. Tous et toutes, Inch'Allah Ta'ala. La fiction est-elle autorisée? Je ne sais pas ce que ça veut dire la fiction. La fiction est-elle autorisée? Je ne sais pas ce que ça veut dire la fiction. Le travail utilisant la fiction sous forme d'extrait littéraire pour enseigner le français, question posée il y a 2 mois environ. Non, je ne sais pas ce que ça veut dire la fiction. Pardon, il faut me dire que c'est quoi d'abord la fiction. Et on doit, inshallah ta'ala, arrêter bi'idhnillah azza wa jal. La fiction, c'est quoi la fiction? Inch'Allah ta'ala, je vous rappelle bi'idhnillah azza wa jal, que, inshallah ta'ala, je vous rappelle que vendredi, inshallah ta'ala, on fera des questions-réponses. Vendredi, inshallah ta'ala, je répondrai aussi à vos questions bi'idhnillah azza wa jal. Bi'idhnillah azza wa jal. La fiction ursalafia basée sur des raisonnements loin de toute vérité. Le khayal. Ah, c'est pas la fiction, pardon. Elle a écrit la fiction. C'est pas. Non, c'est pas la fiction. Je vais dire comment on dit ça. Science-fiction. C'est la fiction. Nam. C'est quoi qu'on dit la science-fiction? Nam. Tayyib. Des raisonnements loin de toute vérité. Je ne sais pas exactement comment on peut faire des raisonnements comme ça, mais si ce sont, je réponds, si ce sont des raisonnements et que tu sais dans ton cœur que ce raisonnement n'est pas vrai, il n'est pas conforme à la réalité, on ne doit pas, non, on ne doit pas faire des raisonnements pareils. Pourquoi? Parce qu'on va tromper les gens. Non, je sais que ce raisonnement est basé sur quelque chose de faux et je vais le faire. Donc, je vais faire tromper les gens. Je vais faire leur croire des choses qui ne sont pas vraies, qui se basent sur des choses qui sont bâtales. Mais si c'est des choses qui sont vraies, ça ne fait rien. Si c'est des choses logiques, non? Il y a ni des choses logiques. Mais si c'est des choses qui ne sont pas vraies, on sait que le raisonnement est faux. On ne doit pas apprendre aux gens des choses qui sont fausses. Alors que dans notre fort intérieur, on sait que cette chose n'est pas vraie. Si on sait qu'elle n'est pas vraie, on ne doit pas la dire. Maintenant, on peut, si on est obligé, par exemple, c'est un programme à l'école ou là je ne sais pas quoi, là, on est enseignant et c'est obligé, et on sait que cette chose n'est pas vraie. Qu'est-ce qu'on fait? On se désavoue. Non, on se désengage. On dit, voilà ce que dit l'écrivain Hada ou là le poète ou là je ne sais pas qui. Voilà ce qu'il a dit. Il dit que il n'y a pas de par exemple, il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas là. On explique, on dit voilà ce qu'il a dit lui. Mais ce n'est pas ce que j'ai dit. Attention, je vais vous lire ce qu'a dit X, le poète ou l'écrivain. Voilà ce qu'il a dit. Mais maintenant, c'est pas ce que je crois moi. Maintenant, je vois. Est-ce que je peux leur montrer c'est quoi ma croyance? Ou là, yani, je ne peux pas leur montrer. Mais je dois dire que c'est ce qu'il a dit seulement, ce n'est pas ce que je dis moi. Non. Par exemple, voilà Platon, voilà le raisonnement de Platon, voilà ce qu'il dit, il dit que la Terre est ceci, il dit que ceci, cela. Mais je vous ai dit, c'est lui, hein. Quant aux ulama de l'islam, là, ils ont un autre avis. Maintenant, si on me demande lequel, je le dis par exemple. Non. Inch'Allah ta'ala, vendredi, on répondra, Inch'Allah ta'ala, aux autres questions qu'il y a, bi'idhnillahi azza wa jal. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الى ديجا اون اور شي موا اي دي مينوت بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا نتلاقاو ان شاء الله فوندردي ابري لي روبير دو سنة واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وعليكم السلام نعم جزاكم الله خيرا جميعا بارك الله فيكم فوندردي ان شاء الله في حفظ الله عز وجل السلام عليكم ورحمه الله